Donc oui, je voudrais vous parler rapidement de Urban Shadows, qui est pour le moment en version bêta. Et ma foi, ça rejoint un petit peu ce dont tu parlais juste avant, Callisto, The Hood. Comme ça?
Voilà, je sais pas, moi on m'a dit de l'aspirer.
C'est trop horrible au montage, ça,
bon,
pour les auditeurs.
Donc, Urban
donc,
Shadows.
Oui, Urban Shadows.
Le Kickstarter est fini.
Dark Modern Fantasy RPG par Andrew Medeiros. Donc, c'est un jeu qui a été kickstarté et dont le Kickstarter s'est terminé il y a peu. Ils demandaient 3 000 $, ils en ont obtenu 35 000, tranquille.
Voilà, donc il y aura plein de personnages supplémentaires, des guides, des city guides, des city guides,
oui,
etc.
Voilà.
En profusion.
En veux-tu, en voilà.
Ouais. Ouais. J'ai donc, fait Vesoul by Night pour eux. ça va dépoter.
Moi, j'ai personnellement, j'ai commencé d'écrire ma version de Paris. C'est tout.
Ça parle de quoi?
Ça parle de quoi? En fait, c'est pour jouer du Angel, du Buffy, du Supernatural, du Neverwhere aussi, je pense.
Ouais, mais on a quand même un petit côté très politique.
Et donc du World of Darkness.
Voilà, vous allez pouvoir ressortir toute votre collection de livres.
C'est-à-dire que nous jouons dans un monde contemporain, classique, urbain, donc dans une ville. On joue des personnages qui, comme dans le jeu dont tu parlais précédemment, ont des dettes et sont également détenteurs de dettes. C'est la principale monnaie d'échange du jeu. Donc on trouve toute une galerie de personnages qui représentent tous les archétypes de personnages un peu surnaturels qu'on a pu croiser dans des romans ou dans des jeux de rôle autres. Donc des vampires, des immortels mais autres, les oracles, les chasseurs,
de la fée, du loup-garou,
fantômes.
La créature la plus rare, la plus mystérieuse dans ce genre d'univers, l'humain normal. Super.
Il y a peut-être même plusieurs versions, parce que je crois qu'il y a le vétéran, genre tu vois un vieil humain.
Ouah, dis trop donc, fort, c'est trop bon, moi je mets 10 000 dollars de plus.
Ouais. Bon, on peut regarder. On...
Non, voilà, donc ça fournit donc ce système de dette. Ça joue également sur un système de corruption qui en fait sert d'XP. C'est-à-dire que plus on marque de points de corruption, plus on va avoir la possibilité d'avoir des nouveaux pouvoirs
de corruption,
des pouvoirs corrompus, qui sont soit des nouveaux pouvoirs, soit des améliorations, des changements de pouvoirs existants. Donc ça modifie un peu la perception du coup qu'on en a.
Alors, des exemples de gains de corruption, je crois, par exemple, c'est peut-être pour le vampire, s'il se nourrit d'un mortel, mais sans son consentement, ou si un chasseur blesse un humain en chassant un
alors,
monstre, en tout cas, je crois.
Par exemple, pour le loup-garou, par exemple, tu peux être une force de la nature. Ça te permettra de jouer avec ton blood au lieu de je sais plus quoi dans une situation et donc ça te permettra de remporter ton truc. Mais par contre tu marqueras de la corruption pour le coup. Par exemple tu as un autre move de corruption, ça te permet de te transformer en loup-garou quand tu veux.
Au lieu de le faire sous condition.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ça les moves de corruption sont pas mal faits parce que ils sont vachement positifs et c'est
oui,
ça qui est
oui,
bien.
Ils sont incitatifs.
Voilà, ça donne vraiment envie d'y aller. Simplement, lorsque donc dans toute partie d'Apocalypse, à la fin, il y a le move de fin de session où on compte là où on en est, où on fait évoluer les niveaux. Et le truc, c'est que il y a l'une des dernières cases, c'est enlever votre personnage de la campagne car il n'est plus jouable.
Alors on peut racheter de la corruption, je crois que dans les possibilités d'évolution, il y a le fait qu'on puisse racheter des moves, donc se laisser un petit peu une petite soupape de sécurité avant de faire sauter son personnage.
Alors ça, ce n'est pas valable pour tous les personnages, il y a des personnages qui sont plus favorisés que d'autres, il y en a pour lesquels la rédemption est beaucoup plus facile.
D'accord.
Il y en a d'autres où on sent bien qu'ils sont sur une pente sablonneuse.
Savonneuse.
Sablonneuse.
Sablonneuse.
Sablonneuse, c'est en plus, tu glisses et en plus ça te râpe le pied.
Voilà, c'est ça.
Sadique.
Alors, je note aussi, on peut jouer Jean-Claude Van Damme, puisqu'il y a un livret The Aware.
Oui, exactement, tout à fait.
Voilà. Alors, quelle est son
il a beaucoup de corruption. Il a beaucoup d'introspection. C'est le gars qui sait qu'il se passe des choses en fait autour. Oui, parce qu'il y a plusieurs factions.
En fait, ça permet le personnage qui est aware. En fait, il a beaucoup de moyens de connaître des choses sur le monde souterrain.
Oui, c'est-à-dire il est sensible, en fait,
connaître les relations entre les gens, savoir qui a une dette sur qui. Il a un move qui s'appelle c'est hey, je connais ce mec. Et pour moi, c'est par exemple le marquis de Carabas dans Neverwhere.
Ok, ouais. Le Guy les bons tuyaux.
En plus. C'est-à-dire avec un peu de panache quand même.
Ouais.
Donc voilà, le jeu est pas encore terminé, donc on peut pas vraiment le juger.
Non, moi je crois qu'il a vachement changé. J'ai l'impression que les personnages ont beaucoup évolué par rapport aux toutes premières versions sur forum.
Entre la version 1.1 qui était disponible donc pour les backers au moment où ils ont souscrit, la version 2.0 qui est sortie donc le 17 juillet je crois. Les règles elles-mêmes, les moves de base n'ont pas changé. En revanche, les archétypes ont beaucoup bougé.
Les ajustements sur les archétypes, oui.
Et surtout les moves spécifiques, la gestion de la corruption, tout ça.
Ouais.
Donc, j'ai l'impression que le système Apocalypse nécessite énormément de vrais playtests pour avoir des personnages qui sont un peu équilibrés. C'est du vrai travail de fond en fait pour faire un bon hack.
Pour faire des bons personnages, pour avoir un rendu en fait, pour bien se dire ok, je voulais créer ça dans la fiction, est-ce que mes moves rendent ça, est-ce que les incitations mécaniques de mes moves vont orienter choses.
Est-ce que naturellement on va sur une scène que je trouve vraiment cool parce que c'est ça que je voulais.
Est-ce que c'est parce que j'applique ce qui est marqué sur mon livret que je vais me diriger vers ce type de scène? Là, je crois que chaque livret a trois manœuvres spéciales par rapport à. Généralement, on en a une par jeu, mais là, il y a ce qui se passe quand on a une activité sexuelle avec un autre personnage. C'est bon. On guette un peu l'entrée de les nuages de lacrymo et différentes choses qui se passent à proximité.
Ce n'est pas un petit quart de police ou deux
qui vont nous empêcher
de propager la vérité sur le drôle alternatif.
L'immeuble a beau être assiégé, ne pas s'arrêter. Le narrativisme survivra. Voilà. Voilà le message que nous adressons à ces gens de la maréchaussée.
Vous les ronds de cuir.
Bon, du coup, il y a trois manœuvres spéciales. Donc, on a dit, il y a une manœuvre de corruption, il y a ce qui se passe, il y a la manœuvre sexuelle, et il y a une manœuvre de fin, je crois. Il y a quelque chose qui se passe quand chaque type de livreur meurt.
Ah, alors.
Bon, il y a des factions dans ce jeu-là.
Oui, oui. Alors, il y a également des factions qui sont donc quatre, au nombre de quatre. Il y a Mortality, Night, Power and Wild. Donc, les créatures se répartissent dans chacune de ces factions. Par exemple, le loup-garou ira plutôt dans Wild. Mortality, ce sera l'humain normal. Bah, voilà.
Jean-Claude, hein, tout à l'heure.
Knight, ce sera le vampire. Et puis.
Power, il y a des mages, des immortels.
Oui, les magiciens, les trucs comme ça. Voilà.
On les coche.
Ce sont des comment ça on les coche?
Je sais pas, on les coche pas les factions pour gagner de l'XP.
Si on peut il y a des actions dans lesquelles on peut jouer non pas sur le personnage à qui on s'adresse mais plutôt à la faction dont il fait partie.
Il y a des moves de faction.
Voilà, des moves de faction qui permettent par exemple de dire je fais partie du même cercle d'initiés que toi ou alors ton groupe de magiciens, je lui ai fourni une denrée rare et donc voilà, je peux exiger un truc.
Alors c'est des choses qu'on fixe au démarrage dans le jeu, un peu quand on crée le contexte ou c'est des moves que je vais lancer en plein pendant
le
jeu.
Alors en fait, tu fais toi-même partie d'une faction, donc tu as tu dois aussi avoir une dette envers eux ou ils ont une dette envers toi. Enfin bref, vous avez une relation.
Un mécanique un petit peu comme on
voilà,
dit, donc pour
voilà,
Zygoud, ouais.
Voilà. Mmh. Qui te permet d'interagir avec elle. Et puis également, il y a des factions de move que je vais retrouver tout de suite.
Qui vont être du style, pareil, un petit peu comme ce qu'on avait tout à l'heure, genre je fais passer le mot au sein d'une faction particulière pour récupérer une info ou des choses de ce style-là.
Alors, les faction moves, par exemple, il y a Hit the Street. Donc c'est pour récupérer une information, un nom, voilà, tu vas voir tes contacts et voilà. Mettre un visage sur un nom.
Voir si la personne en face de toi elle est connue dans le milieu ou pas, enfin dans la faction.
Voilà, exactement. Et il y a aussi pour explorer un lieu de pouvoir. Mmh. Qui te permet donc tu fais un jet avec donc ta faction, ça te permet de voir sous la surface des choses. Oui. Et donc tu as le droit de poser une question au MC sur la politique ou les buts de la faction en question.
Qui contrôle vraiment le hall de l'immeuble?
C'est ça. Tout le monde pense que c'est à cause du graffiti qui est sur le mur. Évidemment, ceux qui savent voir savent que la faction des magiciens a posé un sceau qui indique que ce lieu est le leur, mais...
Moi, je pense que c'est une momie.
Celle de la cave 22. Question oui. bête. Est-ce qu'on est comme dans du monde des ténèbres et qu'on va se retrouver avec énormément de difficultés à trouver des humains normaux? C'est-à-dire que justement, en fait, comme la cave est occupée par des momies, le grenier, il y a une sorcière.
En fait, en réfléchissant à ce problème, je me dis que c'est juste un problème de d'échelle, ou en tout cas de fréquentation finalement. Parce que les aristocrates qui vivent dans le 16e arrondissement, ils savent que les pauvres existent. Ouais. Cependant. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils vivent leur vie de tous les jours, mais ils n'en rencontrent jamais. Et bon, évidemment, c'est pas vraiment comme ça, mais on peut prendre ça sous cet aspect-là, c'est-à-dire que on est intéressé et on ne commence finalement à interagir avec quelqu'un que parce qu'on a finalement un intérêt et voire une dette ou un truc ou on fait partie de la même faction ou voilà. Et donc, à ce moment-là, on est amené à communiquer finalement qu'avec des gens comme nous.
Ouais, mais je crois qu'on peut changer progressivement les factions. On peut moduler un petit peu les factions qu'on a. Il n'y a pas quelque chose du style en fond
Oui, on peut augmenter et diminuer le niveau de relations avec la faction.
À chaque fin de session, genre j'augmente mon niveau de relation avec la nuit et je diminue avec la mortalité.
Est-ce qu'on leur annonce ? Je suis désolé, mais j'étais obligé de diminuer mon niveau de relation avec vous.
Il y a des manières très... Oui, tu vois des courriers. Tu vois un truc style, nous n'avons plus souhait à travailler avec la faction de la nuit à cause de ces problèmes de facture EDF trop élevés. Non, ça c'est un courrier de banquier en fait. Ça c'était pour moi dans ma boîte. Nous n'avons plus souhait à travailler avec...
Nous aimerions augmenter la relation avec votre faction.
Ouais. C'est un jeu de banquier puisque tout le monde a des dettes et reçoit des dettes.
Tout à fait. Oui, voilà,
c'est la meilleure des monnaies d'échange en fait. Hein, c'est ça qu'on trouve. Est-ce qu'il y a des manœuvres ou des
C'est le meilleur moyen pour que l'autre soit intéressé à ce que tu sois content. Et oui, donc qu'est-ce que tu me demandais ?
Déjà, je te laisse finir. Et effectivement, ça évoque un autre jeu où les dettes sont importantes.
Voyons voir. Il y a aussi une gestion de l'état physique qui est décomposée en 5 petites cases avec 2 blessés, 2 graves et puis 1 fatal mort. Bref.
Donc là, ouais, c'est à peu près décomposé comme dans du Apocalypse World. Il y a pas mal de moves de dégâts.
Oui, tout à fait.
On sent que la baston est assez présente.
Ah, bah
aussi.
Oui, il y a notamment le move qui s'appelle Unleash.
Oui.
Par exemple, quand tu es un loup-garou et que tu unleash plus grâce à ton move de corruption, et ben là, vraiment, tu fais plus de dégâts et tout. Vraiment, c'est extrêmement violent. Ouais, je pense qu'on est susceptible de se mettre sur la gueule si on n'arrive pas à un arrangement auparavant.
C'est un des premiers trucs qui m'a frappé quand je suis tombé sur un livret. Je me dis, ah oui, c'est vrai que c'était comme ça dans Apocalypse World à l'époque. Avec des gros fusils, des machins, etc. Bah là, c'est pareil. Il y a les pouvoirs de combat de la fée ou du sorcier.
Toi, tu préfères les jeux où on humilie l'adversaire et il fait « Oh !» et il va s'enfermer dans sa chambre.
En pleurant et en écoutant de la musique sombre.
Voilà.
Tout ça parce qu'il n'a pas eu de scooter.
Donc je peux pas vraiment vous en dire plus parce que j'y ai pas joué, j'ai pas les trucs en tête et tout, mais je trouve le jeu super intéressant. En plus, je pense qu'il sera à pas cher en PDF. En plus, l'avantage, je trouve, des hacks Apocalypse World, c'est que à partir du moment où tu as imprimé les feuilles de perso, tu as grosso modo l'essentiel du système de jeu sous la main.
Oui, c'est le support de jeu, quoi. Donc, voilà. En gros, les moves basiques, les agendas, principes et compagnie. Voilà. Et là, en fait, tu as de quoi jouer, quoi.
Ouais.
Le reste, tu le lis. Mine de rien, on le relit souvent, je trouve. On a quand même souvent. La partie qu'on relit, c'est justement cette partie qu'on n'a pas imprimée. Et souvent, entre deux sessions. Mais au fait, donc c'est des choses qu'on. Mine de rien, on remet quand même souvent le nez dedans.
Oui, c'est bien possible. Bref, voilà, je vais pas vraiment dire plus. Donc, je propose que maintenant,
Que maintenant, je me fasse une brève mention de Undying, qui est un autre hack. Je sais absolument pas où ils en sont dans les 50 versions qu'il y a
eu. C'est un jeu qui est en bêta et qui devrait arriver dans quelques mois dans une version finale et commercialisée.
Voilà. D'accord. Donc certainement encore une fois sous un Kickstarter. Mais en tout cas, j'ai arrêté de m'embêter à traduire parce que
une histoire de mort vivant.
Une histoire de mort vivant, une histoire en fait de Vampire la Mascarade, grosso modo, vu par le filtre Apocalypse World. Et si ça partait tout au démarrage avec des notions de Jet Day, ça a été complètement remplacé dans les versions suivantes. C'est-à-dire qu'on est on est juste revenu à des simples choix. En mettant en avant deux monnaies particulières qui vont être le sang. Donc en gros, si tu veux t'assurer de réussir un combat, t'as juste à miser plus de sang que l'adversaire. Et après, débrouille-toi pour remplir cette chose de sang, sachant que l'humanité de ton personnage va être aussi quelque chose de mentionné sur ta fiche. Et qui va être jugé par les autres joueurs en fin de partie. C'est-à-dire que tu vas dire au démarrage « Ouais, j'estime que je suis plus ou moins humain et compagnie. » Puis à force d'avoir fait des atrocités à la fin de la partie, c'est les autres joueurs qui vont dire « Non, tu n'as pas été humain. »
C'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ça, non ?
Hein ? Mais non.
Ton personnage est jugé finalement par les autres personnages.
En fait, on juge vite fait rapidement si ton interprétation du personnage colle bien avec le niveau d'humanité que tu t'es collé. Et donc, en dehors de cette humanité et de ton statut dans la société, vampirique, les deux monnaies en fait qui vont s'échanger, comme je disais, c'est le sang et les dettes. Donc là aussi, l'importance des dettes, par exemple, le nombre de dettes que tu vas avoir va permettre de te positionner par rapport à la personne qui est en face de toi pour savoir lequel est le plus haut dans l'échelle alimentaire en fait. Dans la chaîne alimentaire. Parce que si tu as plus de dettes, etc., que lui, même si vous êtes du même niveau social, genre plébéien, patricien, etc., peu importe le nom du statut vampirique choisi, ça va déterminer en fait qui tu es. Et tu as donc du coup l'avantage dans toutes les négociations, parce que tu es mieux placé que lui dans l'échelle sociale.
Mais alors, est-ce que de ce fait, t'es assuré d'emporter tous les combats ?
Non, c'est pas une notion de combat. Là, ce serait de la négociation.
Non, mais combat social, c'est la même chose.
Hein, jusqu'à tant que tu arrives à conserver tes dettes et que tu n'as pas besoin de les faire jouer ou que personne ne commence à te réclamer à toi que tu payes tes dettes et que tu es.
Ah, d'accord. Tu peux
C'est toujours quelque chose de très instable.
Tu peux creuser donc ton déficit finalement. En essayant, si tu
creuses trop ton déficit, à un moment donné, tu vas être incapable de rembourser. Si tu es incapable de rembourser, ton statut va être enlevé puisque tu vas te retrouver hors société, un petit peu comme les anars, etc., qu'on avait dans Vampire la Mascarade. On avait un nombre de livrets, par contre, à l'inverse de tout ce qu'on disait tout à l'heure, extrêmement restreint, puis je crois qu'il n'y en avait que 5 ou 6 qui étaient assez orientés. Donc, on reconnaît le gangrel, on reconnaît le toréador, etc. Ou en tout cas, un archétype équivalent derrière. Et ma crainte, c'était de dire, ouais, mais est-ce qu'on va pas se retrouver toujours à jouer un peu les mêmes personnages? Donc, j'attends de voir, j'ai lâché vraiment le projet parce que ça, y a eu pas mal de modifications. Peut-être que Steve, toi, tu suis de plus près.
Moi, j'ai lu la dernière version, qui est la version 3.5, qui est disponible gratuitement. C'est une bêta sur Internet. Et moi, j'encourage tout le monde à lire ce hack, parce que je lis beaucoup de hacks de Apocalypse World. Et celui-là, il invente pas tant que ça, mais il réutilise des mécanismes qu'il va piocher à droite et à gauche, et qu'il utilise de façon extrêmement cohérente pour traiter des questions du vampirisme et de la lutte contre la bête pour maintenir son humanité. Ouais. Le jeu se présente comme un hommage à Vampire Mascarade, et je trouve qu'il est très largement supérieur à l'original.
D'accord.
On pourra mettre sur
carrément
le, site, le lien.
Ouais, on pourra mettre le lien. Ouais. Avec très peu de choses, effectivement, il restitue bien les éléments. Par exemple, si je vais chasser, c'est mon statut qui va me permettre de choisir des éléments. Genre, est-ce que je fais ça discret, est-ce que je fais ça rapide? Mais quand j'aurai chopé ma proie, c'est mon humanité qui va déterminer ce qui se passe. Est-ce que j'arrive à me contrôler, à pas la buter, ou à ne pas la faire souffrir, ou à lui faire oublier, faire en sorte qu'elle ait pas des cauchemars toutes les nuits en pensant à moi? Un autre élément aussi, c'est que ça forçait le lien avec les humains. C'est-à-dire que je crois que si tu veux garder ton niveau d'humanité, tu es forcé vraiment d'avoir des interactions avec des humains. Genre, tu vas jouer ta relation amoureuse ou la relation avec ton frère qui lui n'a pas été transformé et qui vieillit, etc. Voilà, plein de bonnes petites choses. Gettons Undying, moi je
dis. C'est un jeu qui est méchant, puisque le jeu t'amène, je pense, assez facilement à faire du mal à des humains et du coup à perdre ton humanité. Ouais. Et ça crée un cercle vicieux qui amène ton vampire vers la bête.
À la déchéance, à la bête.
En même temps, c'est.
Ouais, c'est
un vampire, hein. Ouais. Vampire, c'est un jeu de rôle.
Quand tu perds en humanité, ta réserve de sang augmente. Donc, si ta réserve de sang augmente, bah, t'auras plus de chances de remporter des combats. Et, y a aussi, ça joue aussi sur le passage du temps. Ouais. Puisque chaque livret a un move spécial qui lui donne un effet. Genre, en gros, quand le temps a passé, genre, en gros, on joue 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que je joue le livret du diable, j'ai buté le prince de la ville et j'ai pris sa place.
Parce que le move de fin de...
Oui, c'est pas des mouvements anodins.
Le move de fin de partie, en fait, ça te permet de faire une grande ellipse. C'est un jeu qui est bien pensé. Enfin, on imagine facilement
c'est
faire
des one-shot, en fait.
Ou alors on imagine faire une campagne qui s'étale sur 2000 ans d'histoire, en fait. On peut parfaitement faire la première scénario, on joue ça dans la Rome antique. Après, on fait une ellipse, on va au Moyen-Âge. Après, on reprend ça dans les années 80, dans les années 2000.
Mais au terme d'une ellipse en question, les personnages reste jouable.
Oui.
Ah d'accord. Ok. Ouais, ouais. Je pensais que c'était vraiment tel que tu le décrivais, qu'ils étaient arrivés à une espèce de statut d'intouchable ou je sais pas quoi.
Non, pas du tout. En fait, tout peut être remis en question et du coup assez facilement avec ces moves de temps qui passent. Voilà, quelque chose d'évolutif où il y a un réel pouvoir des joueurs sur le background et le tout comme dit avec deux caracs fluctuantes, deux monnaies, le sang, les dettes, et deux caracs fixes, je crois, l'humanité et le statut. Ouais. Donc quelque chose à lire. Voilà.
Et contrairement à Vampire, on peut facilement monter dans la hiérarchie vampirique. Chaque personnage a un move qui lui permet d'arriver au deuxième niveau de hiérarchie vampirique, juste à côté du prince.
Ouais. Alors si je prends le loup, en gros, si j'ai assez de gars dans ma bande, au lieu de me considérer comme un petit merdeux, on va me considérer comme un gros merdeux. Non, comme le bourgeois local, quoi, si tu veux. Enfin, le niveau 2, en fait, dans la hiérarchie, donc juste en dessous du prince. Mmh. Donc du coup, mon poids a de la parole parce que j'ai des gars qui peuvent te péter.
Ça évoque plein de choses qu'on voyait dans Vampire, mais qui n'y étaient pas gérées par une mécanique.
Ouais. C'est pour ça que je trouve que l'élève a dépassé le maître.
Ouais.
Oui, là, vous m'avez bien donné envie d'aller jeter un œil.
Voilà.
Très bien. Eh bien, continuons tout de suite. Steve, tu es prêt? Tu es chaud?
Oui, je suis prêt. Donc moi, je vais vous parler de Swords Without Master, qui est le dernier jeu d'Epidia Ravachol. Alors, Epidia Ravachol, c'est pas le plus connu des auteurs indépendants américains, mais il a eu une petite notoriété avec son premier jeu, qui était Dread. C'était le jeu d'horreur qui se jouait avec une tour de Jenga, et où à chaque fois qu'on avait une action à faire, on tirait la tour, et si la tour tombait, son personnage disparaissait de la partie.
Ouais. Excuse-moi, c'est quoi une tour de Jenga?
La tour de Jenga, c'est un jeu d'adresse pour enfants. On a une tour qui est faite de petits morceaux de bois, et à chaque tour, on enlève un morceau de bois, et on le met au-dessus de la tour, et plus la partie avance, plus la tour devient instable, et plus il y a des chances qu'elle tombe.
Ok, je connaissais sous un autre nom. Badaboum.
Badaboum.
Ouais, mais ça pétait moins, tu vois, avec Dread. Dread est basé sur le système Badaboum. C'est un jeu d'horreur psychologique et de gestion du stress.
Je me souviens, parce que moi, j'ai joué toute mon enfance chez ma grand-mère, mais c'était un jeu des années 70 avec le type avec une belle moustache, hein, comme on n'en fait plus de nos jours, quoi. Une bonne grosse moustache et ses enfants. Imaginez de faire un jeu ou de marketing. Le marketing aujourd'hui fait la photo pour la couverture et tu vois des enfants avec leur papa qui est chauve avec une moustache.
Ouais.
Je pense que ça marcherait beaucoup moins. Mais donc Badaboum.
Ok. Eh bah oui. Steve, si tu n'es pas trop traumatisé par cette image de chauve à moustache.
Si vous voulez ressortir votre jeu de Badaboum, achetez Dread et Dread House, les deux jeux de Epidia Ravachol. Alors là, pour Swords Without Master, on sort du domaine de l'horreur et du Badaboum, puisqu'on va entrer dans un autre genre qui est le Sword and Sorcery. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler du jeu, je veux vous parler un petit peu de mon état d'esprit en vous le présentant. Alors je pense que vous allez pouvoir comprendre facilement, puisque je pense que tous autour de cette table et tous les auditeurs qui nous écoutent, on a tous vécu un peu la même situation sociale, à savoir on était en train de manger par exemple dans un dîner de famille ou alors dans un repas entre collègues, et comme on est fier d'être rôliste, à un moment on lâche dans la conversation: oui, moi il m'arrive de faire des parties de jeux de rôle. Et là c'est la catastrophe, puisque on espérait que la conversation passe à autre chose, mais il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit: mais en fait c'est quoi le jeu de rôle? Et là, on le sait tous, pour tous l'avoir vécu, il est en fait assez difficile d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle à des gens qui n'ont jamais pratiqué le jeu de rôle. Finalement, Gary Gygax, quand il a inventé Donjons et Dragons...
Tu peux dire ta gueule c'est magique, mais ça non plus, ça n'a pas compris.
Voilà, c'est pas compréhensible. Ta gueule c'est rôliste, mais
même à son psychiatre, c'est difficile de l'expliquer.
Bah c'est ça, oui, son... quand on est en asile, enfin moi j'ai eu beaucoup de soucis dans ces situations, tout ça parce que j'ai pas réussi à expliquer ce que c'est que le jeu de rôle à ma patronne. Enfin c'est des problèmes importants. Et en fait pourquoi on a du mal à expliquer ce que c'est que le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle finalement c'est quelque chose d'assez particulier. On peut dire que ça dérive du théâtre, mais c'est pas complètement vrai.
Oh, putain, ça se rapproche.
Et on fait de la critique de guerre.
Ouais, on a perdu un chroniqueur.
Mais j'ai plus de flammes.
Ah ouais.
Pas des étincelles en tout cas.
Bon. On va dépêcher Cyril. Comme ça, il aura quelque chose à mettre dans sa bulle.
Cyril est reporter.
Pardon.
Donc oui, je disais que le jeu de rôle, on avait du mal à expliquer ce que c'était. Et là, je suis un peu. J'ai le même sentiment en cherchant à expliquer ce qu'est Swords Without Master, puisque à la lecture, ce jeu me donne l'impression de venir d'une réalité parallèle où Gary Gygax n'aurait jamais existé, n'aurait jamais inventé Donjons et Dragons, et où Epidia Ravachol, pour écrire son jeu, il aurait dû réinventer tous les codes de ce que c'est que le jeu de rôle. Alors.
Vache.
Donc voilà, là, je mets la barre assez haute, hein, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, je vais commencer par parler des quelque chose de simple, c'est... Ah, pardon.
Mange ton micro.
Quelque chose de simple, c'est quels étaient les objectifs de Epidia Ravachol au moment d'écrire Sword Without Master. En fait, son but, c'était d'émuler un genre, donc le genre de Sword and Sorcery, qui est le genre des romans et des films de Conan le Barbare, ou des romans comme Le Souricier Gris, la saga de Fritz Leiber. Et pour ça, il n'a pas pris la décision d'écrire un univers qui correspondait au code du Sword and Sorcery. Il a plutôt pris la décision d'analyser qu'est-ce qui faisait les particularités du genre et d'intégrer ces particularités dans son système de jeu. Donc, le premier élément d'analyse du pourquoi le Sword and Sorcery était un genre différent des autres, c'est qu'il a commencé à s'intéresser aux personnages. Et pour lui, les personnages de ce genre d'histoire sont des personnages qui sont particuliers parce que c'est des personnages qui font contraste avec le reste de la société. Au sens où c'est les seuls personnages qui sont vraiment libres. En fait, on est dans des sociétés où l'esclave.
C'est très vrai. Voilà, Conan, en tout cas, l'esprit, c'est exactement ça.
Bah, tout à fait. On est dans un univers.
L'esprit premier de la chose. Ouais. C'était le barbarie par opposition à la civilisation et donc en fait le non-respect de certaines règles, etc., qui lui assurait sa survie.
Ouais, tout à fait.
Bah, pas du tout le fait de se balader en slip à fourrure.
C'est quelqu'un qui a refusé d'être esclave, mais c'est aussi quelqu'un qui refuse d'être enchaîné dans la civilisation. Et donc, on va incarner ce type de personnage. Donc, Epidia Ravachol les appelle les rogues. Moi, je vais traduire ça par aventurier, ce qui est peut-être pas une traduction fabuleuse, mais ce qui m'a permis d'y jouer. Et voilà, et c'est intéressant, je trouve, de définir un univers et un genre par les personnages. Quand on y pense, c'est assez proche de ce que fait le Dungeonverse, puisque qu'est-ce qui est vraiment particulier dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est l'existence de groupes de PJ, à savoir des groupes d'aventuriers qui vont résoudre les problèmes de la veuve et l'orphelin et qui vont aller piller des donjons. Alors, deuxième particularité du genre, c'est une particularité qu'analyse Epidia Ravachol, c'est une logique de menace, à savoir, dans ces histoires de Sword and Sorcery, on a toujours une menace qui plane à l'horizon, et ça, Epidia Ravachol, il utilise une allégorie, c'est l'allégorie du tonnerre et de la tempête, à savoir, le meneur de jeu, alors en fait, il s'appelle l'overplayer dans Sword Without Master, et moi j'ai traduit ça par maître joueur, donc ça me permet aussi de dire MJ, donc c'est plutôt facile. Mais donc, le maître de jeu, il est incité à tout moment, dans toutes les scènes, à faire sentir qu'au loin, il y a le tonnerre qui gronde. Donc, le tonnerre, c'est évidemment, enfin, c'est pas un jeu où on se bat uniquement contre les problèmes météorologiques. Hein. Le tonnerre, ça peut être la horde de barbares ou la horde de créatures monstrueuses qui s'apprêtent à déferler sur la cité. Mais cette menace, elle doit toujours être présente et le MJ doit toujours l'avoir en tête. Et cette menace, elle commence par être le tonnerre, mais à certains moments, elle va fondre sur les joueurs. Et là, on va dire que cette menace, c'est The Storm, la tempête. Ensuite, la troisième analyse de Epidia Ravachol sur le genre Sword and Sorcery, c'est une analyse en termes d'ambiance et de pôle esthétique. Et pour lui, le genre est caractérisé par deux types d'ambiance. Donc la première ambiance, c'est une ambiance qui est une ambiance maussade. Alors maussade, ça ne veut pas dire que tout le monde est triste et déprimé, hein, on n'est pas dans Monster Hearts, mais c'est plutôt une ambiance de calme ou de silence un peu mortel. C'est l'ambiance qu'on a quand on arrive devant un temple abandonné, qui pleut, qu'on n'entend rien, mais le vent fait des petits sifflements qui donnent l'impression d'être au milieu de fantômes, le fantôme des aventuriers qui était là avant nous.
C'est un peu une ambiance d'espionnage aussi.
Alors, pas vraiment.
Ah. Oh là là, oh là 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 là.
Mais pour le compte, ça rappelle effectivement l'ambiance de certaines des nouvelles de Howard.
Ouais.
Toujours cette espèce d'atmosphère un peu pesante.
Le film, lorsque les personnages s'introduisent dans le temple avant la scène d'orgie célèbre, oui. Il y a cette ambiance, c'est très très pesante comme
ouais,
ça.
Tout à fait.
Ou de Clark Ashton Smith, peut-être l'Empire des Nécromans, la fantasy un peu dark, non?
Je suppose. Alors, ouais, enfin, en tout cas, voilà. C'est moi, je suis pas un grand spécialiste en fait de Sword and Sorcery. J'ai vu Conan comme tout le monde, mais vous allez me dire si ce que je, enfin, ça me rassure pour l'auteur si ce que vous me dites, c'est que ça vous rappelle vraiment des histoires de Sword and Sorcery. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il a une idée un peu plus précise que moi de ce qu'est le genre.
Je voyais Callisto qui pinçait.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs courants, on va dire, un peu dans la Sword and Sorcery. Parce que les premiers trucs, ça a été écrit, genre Howard Conan, ça a été écrit en 1930, à peu près, même avant. Et en fait, après, énormément de choses qu'on a vues, y compris des films, les Kalidor et compagnie, etc. Tout ça, c'est plutôt plus ou moins dérivé de ce qui est presque de pastiche, en fait, qui ont été faits dans les années 60-70, et c'est là où on a vu apparaître le coup des chainmail bikini, des barbares en slip, etc.
Ça, c'est moins
l'idée. Et qui dénotait un petit peu. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, à la base, Conan portait des chemises, enfin bon, et en fait, c'était pas la force qui lui permettait de gagner, mais plutôt de la vitesse, le réflexe, justement parce que ses instincts n'étaient pas bridés par les réflexes.
Et la ruse.
C'était pas amoindri par la civilisation, etc. Lui, t'es resté un peu animal. Enfin bon, il y a eu différentes choses. Et, on parlait il y a pas longtemps de Sorcerer, et tout ça est très bien expliqué aussi dans le supplément Sorcerer and Sword.
Oui, c'est vrai que Ron Edward est un deuxième grand fan de jeux, enfin, et d'histoire Sword and Sorcery. Ouais.
Mais voilà, on peut en fait faire une espèce de petit parallèle entre Lovecraft et Howard à ce niveau-là. C'est que l'un comme l'autre ont posé quelque chose. On posait un univers et un genre qui a été très, très modifié, très altéré, qui a beaucoup muté. C'est pas forcément un mal dans certains cas, ça a amené à des choses intéressantes, mais pas que.
Là, je pense qu'on est dans une logique avec Épidia Ravachol, une logique de puriste, quoi.
Qui m'a l'air assez orienté vers ce que je recherchais moi, à savoir des choses basées sur l'ancien.
Je pense que tu t'y retrouveras dans ce jeu. Et donc, la deuxième ambiance, après l'ambiance Mossad, c'est une ambiance joviale. Alors, joviale, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. C'est l'exemple de la scène d'orgie dont nous parlait Cobal. C'est quelque chose d'assez jovial. Enfin, il y a du bruit, il y a de la fureur. Mais ça peut aussi être les fêtes de village. Mais surtout, l'ambiance joviale, c'est pas forcément quelque chose de positif. Hein. Ce qui peut être jovial, c'est aussi
une
bonne baston, c'est la couleur rouge du sang des ennemis qui vient repeindre les murs. C'est la joie un petit peu brutale mais un peu malsaine de trancher la tête de ses ennemis. C'est le cri, c'est la fureur. Voilà, les ambiances maussades et joviales, il l'explique assez longuement. Il donne beaucoup de synonymes dans son jeu. Il faut vraiment
les prendre en sens large. Est très éloignée de la mienne, mais pourquoi pas.
Voilà, ouais.
Tu ne sais pas t'amuser.
C'est une histoire de contraste, je pense.
Bah, c'est du yin et du yang.
Oui,
c'est-à-dire que quoi que tu fasses, il faut que ça soit très contrasté. Si l'ambiance est triste, il faut que ça soit pesant. Si l'ambiance est légère, il faut que ça soit une légèreté alcoolique.
Oui.
Une vraie ébriété.
Et on verra qu'il joue sur les contrastes et il y a une partie du système qui permet de jouer sur les ruptures de ton brusques. Alors, puisque ces deux ambiances, donc comment est-ce qu'il les introduit dans le système ? Il les introduit via un système de dés qui est donc il y a deux dés, il y a deux D6, un dé maussade et un dé jovial. Et quand on va régulièrement lancer les dés pour savoir si on fait une égalité ou si on fait ou si c'est l'ambiance maussade qui gagne ou si c'est l'ambiance joviale qui gagne. Donc au début de chaque scène, le maître joueur, le MJ, va devoir lancer les dés et ça va lui permettre de déterminer quelle sera l'ambiance de la scène. Et autre particularité, c'est ensuite surtout les joueurs pendant la scène qui lanceront les dés, mais si jamais il y a une égalité entre les dés, il va y avoir une rupture brusque de ton et de l'ambiance dans la scène. Donc par exemple, je donnais l'exemple de cette scène où les aventuriers arrivent dans un temple où ils sentent les bruits du vent, et là, imaginons que les dés tombent et il y a une égalité entre les dés, là on va passer immédiatement dans une ambiance joviale. Donc par exemple, ils vont entendre des cris horribles, des statues qui cherchent à se jeter sur eux en poussant des cris, en abattant les murs, en cherchant à les écraser de leur massue. Voilà, et l'idée est de jouer sur cette logique de rupture. Donc, vous noterez que le MJ est contraint, en fait, dans les ambiances qu'il va utiliser. Donc, forcément, c'est un jeu qui ne peut pas être scripté de façon aussi précise que certains jeux traditionnels, puisque le MJ va être obligé, va être contraint par les dés. Donc, moi, je conseille de préparer la partie en ayant préparé plusieurs éléments dans lesquels on va pouvoir piocher des ambiances, des temples, des lieux, des personnages, mais ne pas penser qu'on va pouvoir réutiliser son scénar de Donjons et Dragons de façon classique.
On peut plutôt savoir comment va se manifester la tempête, le rage tel qu'il est décrit, quoi.
Oui, c'est ça, pareil.
Si mon orage est un ville sorcier retranché dans sa tour, comment est-ce que dans différents lieux sa présence va se faire
manifester?
On
peut effectivement préparer le tonnerre et on peut effectivement avoir une idée de ce que sera la tempête quand elle va...
Tu sais, c'est comme la règle de scénario où c'est exactement ce que tu décris, où d'abord deux fois tu entends l'orage ou en tout cas une manifestation qui se rapproche, et la troisième c'est la bonne, et là tu vas affronter le truc.
Non, c'est bon, la manifestation ne se rapproche plus, il n'y a plus de lacrymo.
J'ai toujours pas compris ce que c'était que l'orage. Tu peux fournir un exemple concret?
Là, le vieux sorcier.
C'est vraiment le t'entends le tonnerre ou c'est juste une image pour.
Non, c'est une image. Donc par exemple, moi dans mon. Dans le scénario que j'ai fait, ils étaient dans une cité, donc la cité des voleurs, une ville immense, et l'orage, c'est qu'ils sentaient qu'il y avait la mainmise d'une sorte de secte, secte étrange qui vénérait des créatures de serpents. Donc il leur arrivait de croiser des serpents sur les murs, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des sacrifices qui étaient faits et que des habitants étaient enlevés, mais dans la plupart des scènes, les prêtres du dieu serpent n'apparaissaient pas vraiment. Mais au moment où vraiment ces dieux serpents arrivaient, là, on était dans une scène de confrontation directe et on était dans une scène de tempête.
C'est quelque chose, en fait, qui va changer l'état des choses, c'est ça?
Oui, c'est surtout une menace qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faut qu'on arrive à faire sentir, même quand on n'est pas dans une scène de danger immédiat.
Et c'est le rôle des joueurs vraiment d'être pivot dans ce changement de...
Non, ça serait... Là, pour le coup, c'est plutôt le MJ qui a le rôle d'amener des éléments relatifs à cette menace. Non, ça fait vraiment partie de l'agenda, pour reprendre des termes apocalyptiques. Voilà,
l'évolution des événements est poussée par le MJ.
Alors, on verra que les joueurs ont un peu leur mot à dire, mais c'est quand même d'abord le MJ qui doit préparer ça, à mon avis.
J'ai une curiosité par rapport au nom de l'auteur, et je me dis, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'il a écrit et la façon dont il voit l'histoire telle qu'elle se déroule, le rôle des gens dans l'histoire. Ravachol, c'était le nom d'un anarchiste,
oui,
qui était guillotiné au 19e siècle. Et est-ce que c'est un pseudonyme ou est-ce que c'est
spécial dédicace à Thomas?
Alors, je lui ai pas demandé, mais alors depuis que j'ai appris que dans les indépendants américains, apparemment Clinton R. Nixon, ça serait un vrai nom. Enfin, en tout cas, je sais pas où j'ai lu ça. C'est peut-être une blague, quoi.
J'ai plus, il a changé de nom.
Ah oui,
oui.
Ah ben donc dans ce cas-là, c'est peut-être un signe que c'était un pseudonyme. Mais là, je.
Donc, attention, parce que maintenant sur G+, les pseudonymes sont autorisés.
Ouais. Du coup, je ne sais pas.
Donc ouais, je peux pas répondre à cette question. Et donc, moi, j'aime bien en fait ce côté contrainte qui se... Donc je parlais du fait que l'ambiance qui elle s'impose au MJ qui ne choisit pas dans chacune de ses scènes quelle sera son ambiance. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que même en tant que MJ, ça me donne une impression d'un monde qui est un peu organique, qui évolue pas de façon carrée, de façon bien scriptée et prévue par le MJ. C'est même quand on est le maître joueur, on est quand même dans une situation où on sent parfois les situations nous échapper. Enfin, quand on est obligé de créer une rupture de ton, là il y a une accélération de la scène qui moi me plaît beaucoup et qui arrive à me surprendre même moi alors que je suis MJ.
Alors comment ça se matérialise en fait?
Alors ça se matérialise, donc il y a une succession de scènes, alors j'y reviendrai peut-être un peu après, mais il y a une succession de scènes dans le jeu, et à chaque scène, au début de la scène, le MJ va lancer les dés pour déterminer quel sera le maître ton, en fait la maître ambiance. Donc il sera par exemple Mossad.
Il y a une part de hasard
au début de la scène. Et même s'il avait l'idée d'amener les joueurs dans un temple, l'approche du temple, il pourra pas la faire jouer et la raconter de la même façon selon qu'on est dans une logique Mossad. Donc ça, c'est ce que je disais, la pluie, le vent qui fait des sifflements, ou qu'on est dans une logique joviale. Là, peut-être qu'une logique joviale, le temple sera pas du tout abandonné, qu'il y aura déjà des prêtres.
Il y a une procession devant, ils sont en train de fêter quelque chose.
Oui, tout à fait.
La question qui me vient, c'est s'il y a un facteur hasard, il peut très bien se trouver que par hasard statistique, tu fasses que du Mossad toute la partie.
Alors ça peut arriver, mais ça serait quand même vraiment pas de chance. Enfin, je.
Donc oui, mais ce que je veux,
tu lances quand même les dés assez souvent.
C'est une chance sur deux par scène.
C'est ça. Et en plus, dans chaque scène, on a, disons, peut-être une chance sur trois ou une chance sur quatre d'avoir une rupture. Enfin bon, c'est.
D'accord. Et au moment de cette rupture, du coup, l'ambiance change.
L'ambiance change, ouais.
D'accord. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup plus de chances que ça varie quand même assez fréquemment.
Oui. Enfin, il y a quand même vraiment peu de chances que toutes ces scènes. Enfin, on enchaîne beaucoup de scènes hein, dans ce jeu. Enfin, on peut s'attendre à voir 10, peut-être 15 scènes dans une même partie. Donc là, avoir que du Mossad, ça serait quand même vraiment pas de chance. Et le système donc Mossad et Jovial, il est aussi appliqué aux joueurs. Puisque le système de résolution du jeu, quand les joueurs vont, en fait, les aventuriers vont chercher à faire des actions, le système de résolution sera toujours un peu le même, à savoir les aventuriers vont, enfin les joueurs vont lancer les dés. S'il y a égalité entre le dé Mossad et le dé Jovial, donc une chance sur 6 d'arriver, là, leur action n'aura pas l'effet escompté. Donc c'est pas forcément un échec, mais en tout cas, ce qu'ils cherchaient à faire, ça fonctionne pas. C'est eux qui décriront la suite de la scène, mais ils pourront décrire ils pourront se débrouiller pour que leur personnage ait toujours la classe en cherchant à faire ce qu'il fait, mais leur action n'aura pas l'effet qu'ils cherchent à faire. Et par contre, si jamais donc les dés, il y a pas une égalité, donc il va y avoir une supériorité soit du jeu.
C'est un non-mais quoi.
Ouais,
à peu près.
Non, ouais, c'est un nom, mais le joueur a le droit de décrire.
Ok.
Et par contre, si les dés sont différents, donc on va avoir soit Mossad, soit Jovial qui va être une valeur supérieure, là les joueurs vont avoir le droit de décrire la suite de la scène et comment leur personnage réussit, mais ils vont être contraints d'utiliser, de faire agir leur personnage dans la logique de l'ambiance Mossad ou dans la logique de l'ambiance Jovial. Alors je vais donner un exemple et je vais donner mon avis sur ce système. L'exemple c'est, on est attaqué par un assassin et cet assassin il nous jette des dagues empoisonnées. On sait qu'on peut mourir en un seul coup si jamais elle ne fait que nous effleurer.
Là, on est en ambiance Mossad ou
Alors là, ça dépend en fait de comment le MJ l'aura raconté. Mais disons que le joueur réussit son jet et il réussit son jet dans une logique Mossad. Là, il va par exemple pouvoir raconter comment son personnage, il se cache dans l'ombre, il retient sa respiration, il se met à entendre les bruits autour de lui, il repère les battements de cœur de son ennemi, l'assassin, et il va calmement passer dans son dos et lui trancher la gorge, mais sans un bruit. Ça, c'est une façon Mossad de régler le problème. Et par exemple, une façon joviale, ça serait, là, le joueur, il va sortir de sa cachette, il va créer « Montre-toi, assassin !» Il va foncer dans sa direction, il va dévier la dague que lui envoie l'assassin par un coup d'épée, et l'épée, elle va prolonger son mouvement dans la gorge de l'assassin, et le sang va couler. Voilà, donc on a cette double logique. Et il y a deux choses à remarquer sur ce système. Une chose que je n'aime pas, c'est le côté contrainte du joueur, la contrainte d'agir de façon Mossad ou joviale. Autant je trouve ça bien qu'il y ait une contrainte d'ambiance sur le MJ, autant je n'ai pas apprécié et mes joueurs n'ont pas apprécié d'être contraints de devoir réussir de façon Mossad ou joviale. Ça leur parlait peut-être un peu moins que moi la logique joviale-Mossad, et surtout je pense que ça leur donnait l'impression de perdre un peu le contrôle sur leur personnage. Enfin, moi je serais presque pour supprimer cette logique Mossad-joviale.
En fait,
au niveau de l'action, en regardant juste pour la couleur de la description.
J'ai le sentiment que c'est un jeu où, en fait, tu sais, t'as certains jeux vidéo où tu peux agir soit en stealth, soit, soit en tapant sur tout ce qui bouge, et que finalement c'est un peu ça, tu choisis soit de te fondre dans le décor.
Mais justement, tu ne choisis pas, puisque tu réussis ton jet,
ouais, les
donc tu racontes
oui,
comment...
Oui, bien sûr, voilà. Alors effectivement...
Donc t'as 5 chances sur 6 en fait de réussir.
Tu as
en fait,
5 chances sur 6 de réussir.
Et dans le cas échéant, tu as une égalité, donc là tu fais ton nom plus ou moins, enfin tu ne réussis pas, tu décris comment, et est-ce que là, c'est là où il y a la rupture, c'est ça?
Oui, il y aura une rupture, il y a une rupture de ton dans les échecs, puisque le MJ, quand il y a échec, l'échec c'est l'égalité entre Mossad et Jovial, et ça veut dire l'échec. Enfin, l'auteur précise que c'est pas vraiment un échec, c'est plutôt, enfin, on n'est pas obligé de ridiculiser son personnage en tout cas. C'est l'action n'a pas l'effet escompté, mais on n'est pas obligé de se vautrer sur une peau de banane pour raconter comment
on se rate. On était dans une scène Mossad. résultat du jet, égalité. Donc la scène devient joviale, c'est ça ?
La scène devient joviale. D'accord. Et c'est vrai que joviale, quand ça c'est vraiment très facile de passer de maussade à joviale. Hein. C'est, la scène devient féroce, quoi. C'est ça qui. Quand on est dans un combat.
Oui, voilà, on était caché dans l'ombre, voilà. Et puis soudainement on sort du pilier.
Et à l'inverse, on peut imaginer une scène.
Empoisonnée.
Ouais, à la limite, une scène joviale, on est dans une bataille de bar. Et pendant la bataille, tout le monde sort ses poings et le chanteur et le musicien, ils continuent à jouer. Et là, passage rupture, ça devient Mossad. Là, quelqu'un sort sa dague, plante un des
musiciens.
Mecs. Et là, et là, les musiciens arrêtent de jouer. Et là, tout le monde comprend que on n'est plus juste en train de s'amuser avec les poings et que il va y avoir des morts en fait. Mais voilà.
Pour le compte, je comprends que cette gestion d'ambiance est pu un peu vous bloquer, mais comme les actions des joueurs sont quand même le cœur de l'aventure, le fait de poser l'ambiance sur les actions des joueurs, c'est quand même un peu essentiel pour maintenir
une espèce d'ambiance
heroic fantasy dans l'histoire.
Alors, je suis d'accord que, enfin bon, toutes les règles de jeu de rôle, finalement, c'est toujours un peu la même chose, c'est des contraintes qui s'appliquent aux joueurs pour la narration. Sauf que il y a des contraintes qui sont un petit peu étranges et que je trouve ça me fait un peu penser à la littérature potentielle, à l'Oulipo. C'est écrire un roman sans mettre de A dedans. Là, c'est pareil. Là, c'est décrire les actions de ton personnage. Voilà, sans mettre de violence ou je sais pas, sans mettre de côté jovial dedans. Enfin, moi, je trouve que tu perds le contrôle de ton personnage et c'est pas vraiment quelque chose qui me convainc plus que ça. Et ça avait un petit peu. Enfin, j'étais pas sévère du tout. Enfin, je contrôlais pas mes joueurs là-dessus, mais je sentais bien que certains, je suis pas sûr que c'était qu'ils manquaient d'idées pour faire du Mossad ou du jovial, mais c'est que leur personnage, ils l'avaient envisagé de telle façon, et ça leur semblait cohérent qu'à un moment de la scène, ils se mettent à crier salaud à l'assassin et qu'ils se contentent pas de se mettre derrière une caisse pour l'atteindre, quoi.
Pour le compte, il pourrait y avoir un exercice intéressant à faire au moment de la création de personnages ou entre deux parties. Probablement à faire en groupe, donc sûrement sur la création,
de
la création
de personnages. Tu tournes le micro, il n'est pas droit et on ne t'entend pas.
D'accord.
Ah, le punch et le sens des micros.
Voilà, on ne m'entendait pas. Donc, je disais, oui, une idée qui pourrait peut-être être intéressante à essayer, c'est de faire un exercice avec tous les joueurs de définition de type d'action ou d'attitude.
Alors, c'est très intéressant
pour chaque personnage.
C'est très intéressant parce que justement la création de personnages, et ça c'est une bonne idée, c'est exactement ce que l'auteur te demande de faire. Il te demande de penser à une situation de danger et à penser à ton.
T'es trop fort, François.
Voilà, et à penser ton personnage, la résoudre de façon maussade et la résoudre de façon joviale. Et ça, je trouve ça assez génial parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça t'amène effectivement à faciliter les règles par la suite, mais surtout parce que ça t'oblige à mettre en scène et à penser ton personnage en mouvement dès la création de personnage. Dès la création de personnage, tu vas imaginer comment ton personnage se déplace. Et pareil, ça type vraiment le jeu. Enfin, c'est pas un jeu où on crée un personnage statique qui a une situation un peu pépère et à qui il va arriver des choses. C'est vraiment un personnage, tu le penses déjà aventurier. C'est pas comme l'appel de Cthulhu où ton personnage est bibliothécaire et c'est l'aventure qui va lui tomber dessus. Là, vraiment, dès la création de personnage, tu vas te dire comment mon personnage va réagir à telle situation.
Comment il va appréhender les choses. Alors, je vais faire le naïf. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur une fiche de personnage ?
Alors, sur une fiche de personnage, il y a ça, en fait. Il y a une description d'une action maussade et une description d'une action joviale. Il y a un truc que je trouve pas très intéressant, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu, mais ça me semble vraiment. Enfin, on doit commencer pour créer son personnage par réfléchir à, je sais plus comment l'auteur appelle ça, peut-être un égrégore. Enfin, il faut qu'on parte de quelque chose qui existe dans le monde réel, donc le monde autour de la table où on est en train de jouer, et qui va nous servir de source d'inspiration pour créer son personnage. Ça peut être, par exemple, je sais pas, on a une écharpe.
Le ponche.
Ça peut être le ponche, voilà.
Et
on va imaginer Poncheman, un personnage qui apprécie l'alcool. Ça peut être une chanson. Enfin, on a une chanson de gestes qu'on a en tête. Et on va trouver qu'elle va caractériser son personnage. Ça peut être un animal, on peut se dire.
À la volette, par exemple.
C'est quoi c'est... Bah, chante-nous cette chanson.
À la volette. Oui, mais non, parce qu'après, les gens vont l'avoir dans la tête pendant 3 jours.
Bon,
et...
bah,
tu le mettras en jingle.
Ne chante pas cette chanson. Mais. Ouais. Et moi, je trouve que. Alors, le problème du jeu, c'est qu'il ne donne pas. Enfin, l'auteur ne donne pas suffisamment d'exemples. Et j'ai trouvé que ça marchait pas tellement. Et enfin, le personnage, il a aussi une sorte de pouvoir qui va lui permettre de prendre un pouvoir narratif qui va lui permettre, en gros, de cadrer une scène lui-même. Voilà. Okay. Par exemple, on peut dire que son personnage, il a un ennemi très important, son némésis. Et ça, ce sera un pouvoir, puisque le fait d'avoir un némésis, ça permettra à un moment du jeu de dire dans cette scène, je veux que mon némésis apparaisse. Donc voilà pour la création de personnages. Moi, je trouve vraiment intéressant la logique de penser son personnage en mouvement. Je suis moins fan du reste, pour être honnête. Voilà. Mais au fond, c'est assez cohérent qu'on ait très peu de choses sur la fiche de personnage, puisque c'est les actions qui vont faire son personnage. C'est pas ses caractéristiques, c'est vraiment...
Steve, sois mal poli, ne me regarde pas quand tu me parles.
D'accord.
Pense micro.
Oui, pardon. je réponds à monsieur le micro. Voilà. Oui. Alors... Donc j'en étais au système de résolution des actions pour le joueur, donc je disais que j'étais pas trop fan de devoir faire choisir Mossad ou Jovial. Par contre, il y a un truc que je trouve génial, c'est dans tous ces systèmes où le fait de réussir son action, ça permet au joueur de raconter ce qui va se passer. En général, il y a plusieurs rôlistes, souvent des maîtres de jeu, qui sont un peu réticents, parce qu'ils vont te dire, là dans ce jeu, si tu réussis ton jet, tu vas prendre le contrôle de la narration, donc qu'est-ce qui va empêcher mes méchants joueurs de décrire comment ils tuent mon boss, enfin mon assassin royal, en une seule scène. Et là, le jeu est très franc là-dessus, il est très clair là-dessus, il assume complètement le fait que tes joueurs, ils peuvent te péter ton mini-boss, et moi j'appelle ça l'effet Next. Alors Next, c'était cette émission un peu bête qui passait sur MTV.
Oh là, je connais pas du tout.
Alors je sais pas si... Alors, bon,
malheureusement, je vois ce que c'est.
alors malheureusement, je vais devoir expliquer ça, j'espérais que tout le monde comprenne et que j'ai pas à me ridiculiser là-dessus. C'était une émission un peu à la Bachelor, à savoir où c'était une émission de télé-réalité, où un personnage, enfin un quelqu'un, cherchait un compagnon, donc ça pouvait être une femme ou un homme, enfin voilà, donc par exemple c'était un mec, il était célibataire et on voulait le caser avec des nanas, et il avait des rendez-vous avec ses filles, et à tout moment il pouvait dire next et la nana elle se barrait et il passait au rendez-vous suivant.
C'est une forme de speed dating, mais en fait tu as le droit d'imposer
ton...
C'est ça,
et avec une logique un peu humiliante, voilà. Mais là c'est un peu...
À peine.
Voilà, à peine, ouais.
Que le fait d'avoir à le raconter là maintenant.
Mais c'est vrai, là c'est heureusement que j'ai pris plusieurs ponches, hein, sinon j'aurais jamais pu prendre cet exemple. Et là en fait on fait next à son MJ. Donc c'est-à-dire son MJ, imaginez votre MJ... Il fait tomber la tempête et il décide que il y a un voleur qui se met à attaquer nos groupes de PJ, et il décrit le voleur, ouais, le voleur, il est chétif et il vous attaque avec une dague. Là, en tant que joueur, vous trouvez que le MJ, il est bien gentil, vous êtes des barbares, ça vous intéresse, enfin son voleur, il est pas hyper intéressant, et donc au moment où vous allez récupérer la narration, et ben vous allez dire, mon personnage, il arrive, il prend son épée, il tranche ton voleur en deux. Next.
Ouais, t'as même plutôt intérêt à en penser à plein, parce qu'en fait, s'ils gagnent 5 fois sur 6, les joueurs.
Mais en fait, le but des joueurs, c'est pas tellement de.
Il y a un truc, justement, à ce sujet qui m'intrigue. Donc, lorsque le personnage échoue, finalement, il n'échoue pas vraiment.
Il n'échoue vraiment. Pas vraiment, ouais.
Alors, il n'échoue pas vraiment, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut.
Il subit un revers, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça. Enfin...
Alors... Ok, je suis coupé en deux, mais ce n'est qu'un revers. Je peux encore
me relever. Moi, je suis empoisonné par l'assassin, mais bon.
En fait, ce qui est important à comprendre là-dessus, c'est que c'est pas tant l'important, c'est qu'il échoue pas vraiment, c'est que en tant que joueur, tu n'es pas obligé de décrire ton personnage ridiculisé par la situation.
Oui, mais c'est pas ça qui me...
Est-ce qu'il y a pas d'attrition,
c'est pas ça qui m'ennuie, en fait. C'est que finalement, c'est un jeu sans ludisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de challenge.
Alors tu verras qu'il y aura du challenge dans certains types de scènes, mais effectivement, le challenge, c'est plutôt de mettre en avant son personnage et de montrer ce que son personnage est capable de faire, et c'est effectivement, on est plus dans une logique de mise en scène que dans une logique de je veux péter ton mini boss, puisque ici, enfin, si on voulait vraiment arriver à vaincre l'adversité à chaque fois, il suffirait de décrire à chaque fois qu'on réussit à gagner au jet de dés, je détruis l'armée adverse. Sauf que là, si le MJ il nous met en face de nous une adversité qu'on trouve intéressante, on va pas lui décrire immédiatement je tue ton voleur, quoi. On va dire j'arrive à avancer en me protégeant des coups de ton ennemi et je le plaque un peu contre un mur. Enfin, on va faire durer la scène parce qu'on trouve que la scène est intéressante
ça,
à raconter.
Ça s'enchaîne comment ?
Mais du coup, comment est-ce que le MJ peut réagir ? Parce que finalement, l'issue est déjà connue.
Alors, l'issue au sens quoi ? Au sens que les joueurs ont 5 chances sur 6 de réussir
Ouais, et puis même dans le pire des cas, ils sont effectivement pas ridiculisés.
Non mais je veux dire, au moment où tu narres, le jet est déjà fait.
Oui.
Donc, lorsque le... Même si le joueur est intéressé par le boss, c'est tu oui. sors un bon gros troll machin.
Voilà, un truc à la classe. Ouais.
Un truc classe, voilà, il a une épée dans chaque main, tout ça. Donc ton PJ arrive dans l'arène, voilà, il lance son jet, il sait que ce sera réussi et donc il va commencer de décrire physiquement comment le combat passe, mais comment est-ce que toi tu peux réagir de manière crédible, parce qu'il n'y a pas de il n'y aura pas ce petit pincement au cœur, tu sais, au moment où tu fais quelque chose de risqué et que le prochain jet de dés le déterminera. Alors que là, au moment où tu racontes, c'est déjà fait.
Pour le coup, je vais préférer. Là, je décris juste le système de résolution, mais je vais préférer répondre à ta question un peu plus tard quand je vais parler de comment se déroulent les scènes de combat.
Très bien.
Voilà.
Très bien. Non, mais très bien. Continuons.
Mais ça me fait penser aussi, puisque ce qui a l'air de te gêner, en fait, c'est la tendance, la réussite permanente de l'équipe.
C'est pas tant qu'elle me gêne que le fait que l'échec, finalement, n'ait pas vraiment d'intérêt et soit pas exploité. Parce que dans les apocalypse trucs, ce qui est cool, c'est que quand tu échoues, tu sais qu'il va se passer des choses sympas.
Il y a une complication de l'histoire.
Voilà, il y a une complication. Là, ton perso va s'en prendre plein la gueule, mais par contre, des choses vont émerger. Au niveau de l'histoire, ça va être cool.
Là, pour le moment, ça te donne l'impression qu'en fait, tu vas épuiser les complications qu'a prévues le MJ, et en fait, après, on considère que c'est bon, la partie est finie.
Alors non, le MJ, il est incité à te mettre des... dire next à ce moment-là, dire je tue ton personnage, ça veut aussi dire envoie-moi la sauce et invente un truc, quoi.
On a le troll, de toute façon, que ce soit un troll, une armée, un voleur tout seul, etc., ça se résout de la même manière. Le troll, il n'a pas une résistance supérieure, il ne faut pas le battre trois fois pour le tuer.
Non, mais si tu considères que ton MJ n'est pas en train de t'insulter avec son troll, tu ne vas pas décrire immédiatement comment tu vas te débarrasser du troll.
Mais toi, tu peux décider, alors que t'es poursuivi par le troll dans un tunnel, que en fait c'est un étai que tu bousilles sur le passage et que le troll peut pas continuer à te poursuivre.
Oui,
il peut réapparaître une scène suivante.
Peu importe si on le tue, si on l'esquive ou quoi que ce soit, mais dans les faits, on a passé l'épreuve. Je vois pas comment le joueur va vouloir faire durer une épreuve, puisque tu le bloques avec une épreuve, il est obligé de la passer. Il fait son jet 5 chances sur 6, il le passe. Il décrit juste la manière par laquelle il passe l'obstacle, et en fait. Tu passes à l'obstacle suivant, donc tu es obligé de faire dans du next.
Une parenthèse par rapport à ce que disait Cobalt tout à l'heure, ce que je trouvais très intéressant, c'est
plus près du micro.
Ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il mentionnait le fait de décrire l'action alors que le résultat est déjà joué, plus ou moins. Et en fait, c'est vrai que ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que le jet de dés soit contenu dans la narration. Et qu'on puisse, par des choix judicieux de mots, remettre en question, prendre plus de risques ou moins de risques. Je suis très confus, c'est à cause du punch, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Et c'est pour ça que je revenais sur ce que disait.
Oui, doser une prise de risque, c'est ça. Oui.
Donc, si je comprends votre difficulté avec le jeu, c'est que vous êtes dubitatif parce que vous avez l'impression que le jeu manque un peu de résistance.
Oui,
et
exactement,
c'est vrai que c'est
ça.
Quelque chose qu'on
le challenge.
On peut comprendre que ça soit gênant, surtout pour des jeux de type Sword and Sorcery, parce que il y a une dimension dont on n'a pas parlé puisqu'elle n'était pas dans l'analyse de Ravachol sur ce genre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de doloriste dans le genre Sword and Sorcery. Je prends l'exemple du film Conan, on a une scène où il se fait accrocher à une croix et il y a un aigle qui vient commencer à le bouffer, et là il est obligé, enfin il est en sang, et il est obligé d'agripper l'aigle avec ses dents et de le mordre. Et c'est vrai que on s'attend peut-être à ce qu'il y ait une dimension plus, enfin il y a vraiment une plus grande résistance aux actions du joueur.
Ouais, on n'a pas de coup. Voilà, quand Valéria meurt, bon voilà, ça devient un nouvel objectif pour lui, etc., parce que sa copine meurt dans le film.
Alors,
on n'a pas cette impression de risquer de perdre quelque chose contre le troll.
C'est vrai que mécaniquement, on a très peu de situations qui nous mettront, qui mettront notre personnage véritablement en danger. Et toutes ces situations, le joueur, on verra qu'il est obligé de les accepter. Alors, pour mieux comprendre, je vais quand même rentrer dans le détail des différents types de scènes, puisque j'ai expliqué en début de chronique que le jeu était particulièrement étrange et qui donnait l'impression de réinventer un petit peu les codes du jeu de rôle. Et pourquoi je disais ça? Parce que la plupart des jeux de rôle qui sont écrits, on a l'impression que la préoccupation en termes de système des créateurs du jeu, c'est d'abord le système de résolution. Enfin, finalement, la seule question qui est posée au moment de la conception, c'est comment est-ce que je vais gérer la résolution des actions un petit peu difficiles. Et en fait, il y a implicitement une deuxième partie du système, c'est comment est-ce que je vais gérer la narration à la table, comment est-ce que je vais gérer qui parle, qui raconte quoi et à quel moment. Et pour moi, là où Sword Without Master brille, c'est vraiment sur les réponses qu'il va donner à ces questions de quand allons-nous narrer, qui va narrer et quoi.
Le partage du pouvoir dans la narration.
Voilà, tout à fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle, c'est les jeux de rôle qui réfléchissent vraiment à cet aspect du système et qui décident d'en faire quelque chose d'un petit peu différent des jeux de rôle traditionnels. Dans les jeux de rôle traditionnels, les règles de partage de narration sont claires. Finalement, c'est le maître de jeu qui va décrire le décor et tout ce qui est externe au personnage, et les joueurs vont décrire les tentatives d'action de leur PJ.
Même si parfois, certains joueurs essaient de pirater un petit peu le boulot du MJ en décrivant discretos certains trucs qui, en plus, dans leur feuille de personnage ou ce genre de choses.
Oui, c'est vrai. Mais finalement, souvent d'ailleurs, c'est un petit peu gênant parce que c'est un moyen d'arnaquer le MJ, parce que au final, les règles de narration, il y a un petit flou et les joueurs vont pénétrer dedans.
Oui, c'est comme au football, quoi. Les joueurs simulent, ils ne sont pas pour autant en sortie du terrain.
C'est vrai.
Très jolie comparaison, je trouve.
En plus d'actualité.
Oui.
Alors, donc, ici, en fait, le Epidia Ravachol va donner plusieurs réponses en fonction du type de scène, et les types de scènes, elles sont principalement de trois types. Donc, au début d'une scène, le MJ va décider s'il est face à une scène de péril, s'il est dans une scène d'aventurier ou s'il est dans une scène de découverte. Alors je vais décrire ces scènes et ça vous permettra, je pense, de mieux comprendre. Le premier type de scène, donc, c'est les scènes de péril, et ces scènes, c'est les scènes où le tonnerre se transforme en tempête et où un danger immédiat et réel tombe sur les personnages d'aventurier. Et le combat va se dérouler par ce que l'auteur appelle la danse de la narration. Alors je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Le maître joueur va commencer à décrire il décrit le tonnerre, et il va la secte du dieu serpent qui rôde sur la cité, et va transformer le tonnerre en tempête, et donc il va commencer à faire intervenir le grand prêtre du dieu serpent qui s'attaque vraiment aux aventuriers. À partir du moment où il fait intervenir la tempête dans sa description, il va tendre les dés à un des PJ et il va commencer sa description. Dans la description, tout le monde a le droit de parler, de décrire les actions de ses personnages, mais c'est le MJ qui va avoir la priorité sur les effets des actions, et il va...
Sur leur ordre
Non, pas sur leur ordre, mais c'est surtout que les joueurs, ils ont le droit de décrire comment leurs personnages réagissent, mais plutôt comment leurs personnages subissent, quoi. Ils peuvent pas, sans lancer les dés, décrire comment leur personnage fait n'importe quoi. Et par contre, le maître de jeu, il peut pas blesser de façon définitive un personnage, mais il peut décrire comment les prêtres du dieu serpent arrivent, frappent les PJ jusqu'au sang, comment est-ce que il les repousse en fait, tant que le MJ n'est pas interrompu par le joueur qui a les dés, il a vraiment priorité sur la description des actions des personnages. Et en fait, le joueur qui a les dés, il peut l'interrompre à tout moment en lançant les dés. Donc en lançant les dés, ça va lui permettre d'entrer dans le système de résolution. Donc soit il réussit, soit il rate. Et de toute façon, il va prendre pendant un court instant, en fait, juste le temps de décrire ce qui arrive à son personnage. Qu'est-ce qui se passe ? Et pendant cet instant, si son personnage a réussi, il peut raconter comment son personnage arrive un peu à reprendre le dessus sur ses ennemis. Donc j'ai dit, on peut faire l'effet next, enfin reprendre le dessus, ça peut être l'effet next et dire carrément je tue le prêtre du dieu serpent.
Ce personnage ne m'intéresse pas, je veux autre chose.
Mais voilà, mais sinon, c'est plus généralement, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à pénétrer dans la mêlée, à avancer vers le prêtre.
Ça peut être un truc du style je trouve un anneau magique par terre qui me rend invisible ou.
Ça peut être ça, mais disons que je trouve que c'est pas tellement dans l'ambiance. Enfin, on est plutôt dans une ambiance martiale, quoi. Alors,
on cherche pas trop à se dissimuler.
Oui,
enfin, moins.
Le jeu n'a pas de mécanisme de sécurité. Donc, si un des joueurs dit quelque chose où tous les autres personnes autour de la table trouvent ça mauvais, il y a pas vraiment de moyen de l'en empêcher. Mais
on peut toujours tuer le joueur.
Non, on peut pas tuer le joueur, donc c'est.
Bah si, avec un tabouret ou en l'empoisonnant.
Ah oui, on peut pas tuer le personnage, mais le joueur, on peut effectivement toujours le tuer. C'est heureusement plus facile de tuer les gens autour de la table que dans la fiction, enfin parce que certains sont des aventuriers et d'autres sont juste des rôlistes.
Oui, voilà, et donc ils ont moins d'XP, moins de réflexes, tout ça.
Bah
moins
c'est ça, ouais, ils sont créés avec des caractéristiques moyennes en fait, alors que le PJ ont quand même des scores un petit peu plus élevés. Enfin bon, je reprends, à partir du moment où le joueur a décrit comment son personnage réagissait, il tend les dés à un autre joueur, et tant que l'autre joueur n'a pas lancé les dés, c'est au MJ de reprendre la parole et de refaire frapper la tempête. Et donc on a un système, donc voilà, une logique de danse de narration, au sens où tant que le joueur ne fait pas la décision d'interrompre son meneur de jeu, c'est le meneur de jeu qui décrit, mais il va lancer les dés pour reprendre un petit peu la parole. En fait, il y a une circulation de l'autorité narrative qui se met en place assez rapidement. On lance beaucoup les dés et on se passe beaucoup les dés lors de ces scènes de péril. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très très efficace en jeu, puisque on a quelque chose de qui se passe physiquement à la table. Je ne sais pas si vous avez joué à Marvel Heroic RPG. On a quelque chose d'un petit peu pareil avec le système d'initiative, puisque on se passe entre les joueurs l'initiative en se tapant dans les mains. Et c'est une idée qui est toute bête.
Ah, c'est vrai, ouais. C'est dans les règles et tout.
Oui, tout à fait.
C'est
une
relation spéciale, se taper dans les mains.
Oui, en fait, on choisit à quel joueur on va passer l'initiative.
Aussi, je me disais, j'ai pas lu ça.
Oui, on choisit à quel joueur on passe l'initiative et on le frappe dans les mains. Et y a quelque chose de physique, parce que l'initiative, c'est comme si elle existait de façon concrète et qu'on était vraiment en train de se transmettre quelque chose autour de la table. Là, c'est un petit peu pareil. Le fait qu'on puisse interrompre son maître de jeu en lançant les dés, ça donne y a quelque chose d'organique dans le fonctionnement de la narration.
Ta gueule, c'est les dés.
C'est ça. Et en plus, c'est le premier jeu de rôle c'est le premier jeu de rôle qui est en temps réel. Puisque ce qui est important, c'est de savoir à quel moment je vais lancer les dés. Et dans la
quand je coupe la parole au MJ.
Oui, c'est ça.
J'attends en fait que le MJ se lance dans un grand truc lyrique qui est vachement bien. Et là, j'en ai rien à foutre.
Mais surtout,
je lui nique sa narration.
C'est là que tu dis next. Je veux un truc.
Comme
oui, c'est un peu ça. Ouais.
Mais à l'inverse, tout ce que le MJ a décrit, en fait, ça s'est déroulé. Et on peut dans pas mal de jeux, le MJ commence à décrire des trucs et dit là le personnage d'ennemi va chercher à tuer la danseuse avec qui t'es. Là dans Sword Without Master, c'est pas le cas. Le MJ il arrive, il dit là la grosse brute te fait face, elle regarde, elle sort sa massue et elle abat la massue sur la danseuse qui est à côté de toi et elle l'éclate contre le mur. Et là le joueur il peut pas faire wow, arrête-toi, j'ai envie d'empêcher ça.
Oui,
là le joueur il a pas lancé les dés, il a pas pensé à interrompre, il a préféré écouter le MJ et c'est tant pis pour lui et c'est tant pis pour la danseuse. Et c'est une scène que j'ai vraiment vécue et le joueur j'ai vu, il était un peu stupéfait quoi. C'était la première scène de péril de la scène. Je décris vraiment comment la brute elle arrive, je décris calmement mais sûrement, elle lève la massue, elle elle l'abat sur la tête de la personne qui t'accompagne, elle la tue. Voilà.
Ouais. Donc là, du coup, ça fait un petit coup le coup phare en fait. Qui est... Mais c'est vrai que les autres, mettons, bon, il y en a un qui mange des gâteaux, il y en a un qui est parti sur son téléphone et compagnie, etc. En fait, du coup, toi, à mon nez, bah, tu vas peut-être tomber à court de narration entre guillemets. Si les gens jettent toujours pas les dés et attendent toujours que tu leur racontes une belle histoire.
Alors ça arrive pas puisque il suffit justement de tuer quelques danseuses et on amène quand même voilà non mais dans les scènes de narration finalement on met en danger les PJ alors il y a pas de
mais
mécanisme
en fait, tel que tu me décris le jeu est-ce que ce serait pas un jeu fait pour un seul joueur?
Non puisque comme on passe très rapidement les dés dans ce jeu enfin dans un jeu comme Donjons et Dragons, un tour de jeu où tous les joueurs ont eu l'occasion de faire leur action, ça peut prendre un quart d'heure. Enfin, là non. Enfin, c'est vraiment, il y a pas une minute qui se passe sans qu'il y ait pas un lancer de dés pendant une scène de péril.
C'est le temps qu'on prend pour le raconter.
Ouais, mais même là, ça va vraiment vite. Hein. Enfin, puisque on a intérêt en fait à interrompre le MJ et de l'autre côté, le MJ, il a intérêt à ce qu'il se passe des choses et à nous amener à lancer les dés et à réussir en fait à décrire comment est-ce que l'environnement se rebelle contre les PJ, enfin comment le fait du mal aux PJ avant que les PJ reprennent la main sur la narration. Donc non, il y a quelque chose de, il y a une grande vitesse de circulation de la narration qui.
Mais est-ce que le PJ qui a les joueurs en main finalement est-ce qu'il ne peut pas
Alors, il a juste son joueur en main.
Pardon.
Il a juste son joueur, joueur en main. À lui en main en fait.
Son quoi pardon.
Il a que son joueur à lui en main.
Il a que son personnage en main.
Tu dis le PJ qui a les joueurs en fait.
Ah non, le PJ qui a les dés en main, pardon, oui, j'ai fait un gros lapsus. Et donc le joueur qui a les dés en main, c'est celui qui peut intervenir à tout moment.
Oui, si c'est lui compris. Qui intervient. Okay.
Et donc, est-ce que par, on va dire, une espèce de souci de préemption ou je ne sais quoi, est-ce qu'il ne peut pas interrompre quelque chose avant que finalement cela n'ait lieu ou...
Seulement, je t'en
ai dit. Il peut faire ça. Là, et là, dans l'exemple de ma danseuse écrasée par la massue de mon ennemi, ouais. Le joueur aurait pu lancer les dés avant.
Une fois que tu l'as dit, c'est fait.
Mais donc une fois qu'on l'a dit, ce qui est dit se déroule.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la partie qu'on va dire qui est réservée au MJ, qui est celle finalement celle qui est purement descriptive.
Oui.
Donc tu vas décrire le temple, machin, les colonnes, les bidules et genre avant que t'aies terminé ce genre d'inventaire qui montre juste Alors, là où se trouvent les personnages.
Attention,
avant que la moindre action.
Non, parce qu'on sera pas dans une scène de péril, c'est ça ?
Si, on est dans une scène de péril, mais le moment où le MJ donne les dés au joueur, donc en lui laissant la possibilité de l'interrompre, c'est au moment où il commence à décrire la tempête.
Ah, d'accord.
Donc,
très bien.
On arrive dans le temple. Tu peux dire qu'il y a le tonnerre parce qu'on sent qu'il y a une présence un peu étrange, mais c'est pas avant qu'il y ait vraiment.
Mais cela ne se déclenche que lorsque
le
MJ a eu le temps de décrire la colonne de sectateurs qui descendent.
Exactement.
Comme on est sur le ton jovial, il y a des danseuses qui dansent nues dans le temple, donc ça c'est bien. Après, il dit attention, j'amène la tempête. Il y a un troll bouffeur de je sais pas quoi.
Alors,
il te donne les dés.
Il le dit même pas finalement. Le fait de tendre les dés, ça veut dire attention, la tempête arrive. Il y a même pas besoin de le dire. Il y a même pas besoin de verbaliser.
Là, tu pousses les dés vers Cobal. Donc du coup, ton troll arrive. Il commence à manger les danseuses. Cobal, à un moment donné, se dit merde, je vais peut-être faire quelque chose. Il jette les dés.
Tout à fait.
Donc là, il reprend le droit de narration. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et qu'est-ce qu'il fait des dés ? Est-ce qu'à partir du moment où il les a jetés, est-ce qu'il les refile à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il les garde ?
Non, d'abord, il décrit la réaction de son personnage en fonction du résultat de son jet de dés.
Ouais.
Il décrit de façon assez courte en général. Hein, enfin, il met pas deux minutes à décrire son personnage. Il y a quelque chose de rapide. Hein, enfin, encore une fois dans le jeu. Et après avoir décrit sa réaction. Il va tendre les dés à un autre joueur de son choix. Et là, le MJ repart. Le MJ repart et il fait frapper la tempête.
Je rattrape la grenade et je la lance à Bob.
Ouais,
non, ça peut... touche pas. Bah, tiens, on renverse des bras zéro. Cobal renverse des bras zéro sur le troll pour le distraire et compagnie. Le machin commence à cramer. Point. Il te redonne les dés. Bon, t'enchaînes là-dessus.
Oui. Et là... tant que tu n'as pas lancé les dés.
Non, tu parles dans le micro, s'il te plaît.
Ouais, tant que tu n'as pas.
Moi, j'ai récupéré les dés.
Toi, t'as récupéré les dés. Mais tant que tu les lances pas, là, ça y est, le MJ va recommencer à raconter comment le troll détruit et écrase les danseuses. Donc, encore une fois, on en revient. Enfin, il y a une logique cyclique. Et tu vas interrompre la narration quand tu vas penser que c'est le moment de faire interrompre.
D'accord. Alors, bon, maintenant, quand est-ce que le troll finit ? À part le moment où moi, un des joueurs va se dire c'est bon, il n'y en aura que du troll qui mange les danseuses, c'est trop injuste, on tue le troll.
Alors, il y a deux choses. Il y a comment est-ce que le troll finit, puisque le troll, enfin finir le troll, on l'a dit, hein, c'est l'effet next, enfin hein, c'est à D'accord. quel moment les joueurs ont envie de s'en débarrasser. Après, mais les joueurs peuvent aussi à tout moment, enfin après avoir lancé les dés, le joueur peut décider non pas de tendre les dés à un autre joueur, mais d'interrompre la scène. Et dans ce cas-là, il va retendre les dés au MJ. Et le MJ a la tâche de clore la, de clôturer la scène en restant sur la situation finale de la scène. Et on peut
D'accord,
à la limite,
là on sort du péril.
Ouais, et on peut à D'accord. la limite clore la scène dans, de façon pas réglée. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir détruit le troll à la fin de la non. scène de péril.
On se barre. Ce temple est très mal fréquenté.
C'est ça. Bah si encore encore une fois,
je ne lui mettrai qu'une étoile sur Facebook.
C'est ça. Ouais. Sur le guide du retard.
Je n'aurai pas de procès parce que j'ai dit que c'était.
Oui. cet établissement vraiment ne
D'accord.
me satisfait pas du tout.
Donc ça c'était une scène de péril. Alors, ensuite on a les scènes d'exploration.
Ensuite, alors les scènes d'exploration je les laisse pour la fin parce que D'accord. c'est la moins intéressante.
Mais c'est celle
que
je me rappelle le nom.
La scène de péril d'aventurier par la suite. Alors c'est une scène où on va faire briller ses aventuriers en se lançant des défis et j'ai envie de l'appeler les scènes de cap à cap. Alors j'explique pourquoi. Le MJ commence à décrire une scène et il va tendre les dés à un des joueurs en lui disant, enfin en lui lançant un défi. Et le défi, il va le formuler de la façon suivante en disant « Montre-moi comment ton personnage arrive à faire ça. » Et donc, par exemple, il va lui dire...
Il y a une rivière déchaînée dont on sait qu'elle est parcourue de rapide, et etc. Il y a également des animaux peu sympathiques dans ce fleuve. « Montre-moi comment ton personnage a pu traverser ce fleuve sans être dévoré par des créatures. »
Voilà, c'est un bon exemple. Donc là, imaginons, je suis le joueur. Et donc le MJ, là, il est un peu chafouin. Il m'a lancé un défi. Et j'ai le choix entre... Alors, comme dans un vrai jeu de cap-cap entre gamins, hein, j'ai le choix entre accepter ou non le défi. J'ai un peu envie de l'accepter parce que ça me permet de faire briller mon personnage. Mais... quand je vais lancer les dés, si je rate mon action, ouais. je vais devoir raconter comment mon personnage n'arrive pas... Enfin, je vais raconter la négation de ce que le MJ m'a demandé. Donc là, je devrais raconter comment mon personnage n'arrive pas à franchir la rivière.
Ouais.
Et alors, là, donc, ce qui aura des conséquences sur lesquelles on pourra rebondir par la suite. Et on peut faire des cap-pa-cap encore plus méchants qui impliquent vraiment des conséquences explicites pour le PJ. Donc par exemple, tu pourrais me demander comment est-ce que ton personnage, montre-moi comment ton personnage, il arrive à franchir la rivière sans se péter une jambe. Et là, en tant que joueur, est-ce que ou même si t'es vraiment violent, montre-moi comment ton personnage, il arrive à franchir la rivière sans se noyer. Et là, en tant que okay. joueur,
ah
là,
oui, ça change complètement l'enjeu.
Voilà.
Fait.
Et finalement, dans ces scènes d'aventuriers, en résolvant ces défis, là, on fait intervenir une vraie logique de risque, hein, parce que c'est ouais, quand même ouais. une chance sur six de planter mon action. Alors, ça peut sembler peu, mais si l'action c'est sans mourir, enfin, si c'est explicitement sans mourir. D'un côté, en tant que joueur, j'avais envie de dire bon, je vais lui demander de se calmer sur le défi et je vais lui demander de me demander un truc un petit peu moins violent. Mais en même temps, j'ai aussi envie de faire briller mon personnage et voilà, c'est ça le jeu de cap pas cap. On a envie de faire les défis même si on sait qu'ils sont quand même vraiment dangereux et vraiment à la con. Et je vais peut-être être incité à vraiment mettre en danger de mort ou en tout cas en danger de blessure, mais enfin de dommages irréversibles à mon personnage juste pour entrer dans la compétition de cap à cap. À la suite du moment où j'aurai montré que mon personnage arrive à franchir la rivière ou n'y arrive pas, en fonction du résultat de mon jet de dés, je vais tendre les jets de dés à un autre joueur et je vais moi aussi lui tendre un défi. Donc, montre-moi comment ton personnage arrive à voler la bourse du chef de la garde sans qu'il ne s'en rende compte. Et encore une fois, là, on est dans la même logique. Soit le joueur, il accepte mon défi, soit il l'accepte pas parce qu'il a quand même pas envie de prendre le risque de réveiller le chef de la garde. Oui.
Du coup, j'imagine le challenge pour le MJ, c'est d'éviter d'abuser de ce système pour trop handicaper les joueurs et puis de bien choisir le moment pour mettre le pack up à un niveau mortel ou
alors moi j'ai plutôt eu tendance à dire que refuser les cap pack up un peu mortels c'était un peu de la responsabilité des joueurs quoi. C'est s'ils acceptent un cap pack, enfin s'ils acceptent mon défi comment est-ce que tu arrives à tuer le capitaine de la garde sans mourir, j'ai envie de dire, c'est leur souci, quoi. Enfin, moi, je trouve que l'important dans le cap à cap, c'est aussi d'amener certains joueurs à se faire un peu charrier, parce que bah, il dit bah non, j'aimerais bien que tu me proposes un défi un petit peu plus aux conséquences un peu plus mitigé.
On peut pas plus de jouer à la belote.
Mais il fait pas hyper le fier dans ces moments-là, évidemment. C'est...
D'accord.
Et à la fin du jeu, c'est le joueur qui va demander au MJ. Enfin, l'un des joueurs va tendre l'aider au MJ en lui demandant de lui montrer quelque chose sur l'univers. Donc là, ça peut être un cap à cap finalement, lancer un PNJ ou quelque chose d'autre.
D'accord.
Ça me rappelle un peu. Okay. Un jour, nous parlerons d'un jeu qui s'appelle H, pas H. En français, hein,
oui.
On joue des nains vantards qui justement vont raconter leurs exploits un peu en ambiance concours de bites, résolu soit avec une hache, soit sans hache. ce sera l'objet d'une autre chronique.
Oh ah, mon vivement. Dieu, quelle horreur!
C'était très intéressant, merci beaucoup.
Et enfin, la
scène d'exploration.
La scène d'exploration. Alors là, c'est les scènes qui servent à faire avancer l'intrigue, c'est l'équivalent des scènes d'investigation. Et disons-le clairement,
on décrit que les PJ trouvent des indices.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va assez vite. En fait, c'est quand le MJ se rend compte que l'action ne peut pas enfin l'histoire peut pas vraiment avancer et que les joueurs sont un petit peu bloqués, il va demander une scène d'exploration et il va tendre l'aider à un joueur et le joueur a le droit de lancer les dés pour expliquer comment il fait des recherches et de poser une question au meneur de jeu. Et s'il réussit, le meneur de jeu va lui dire, va développer sur cette question. Et s'il rate, il va aussi lui donner la réponse à la question. Mais en fait, la réponse à la question, c'est uniquement le joueur qui est au courant et pas le PJ.
Ah.
Donc voilà. Donc en fait, et là, le MJ, il est incité à décrire comment, qu'est-ce que le joueur.
Et là, le joueur fait, enfin plutôt le personnage fait.
Et typiquement,
c'est donc lui.
Ouais, voilà. Et typiquement, le MJ, il a incité à décrire des trucs que les PJ ne savent pas, mais des trucs un peu méchants, quoi. Enfin, genre.
Mais
pas...
c'est justement, je trouve ça plutôt amusant cette dichotomie entre ce que c'est le joueur et ce que c'est le personnage.
D'autant plus que c'est généralement.
Et en général, c'est le contraire. Oui, voilà, c'est ça.
C'est vrai. Mais c'est intéressant, mais en fait, c'est très court parce que là, à partir du moment où il a répondu à la question. Le MJ décide si la scène a encore lieu d'être ou s'il y a assez d'événements pour faire avancer l'intrigue. Et là, s'il y a assez d'événements pour, enfin, si on a encore besoin de révélations pour faire avancer l'intrigue, il tend l'aider à un autre joueur qui peut lui poser une autre question. Et sinon, on arrête la scène. Donc, c'est vraiment.
D'accord. Alors, c'est-à-dire que par exemple, j'ai mon personnage de barbare et tout qui interroge un type de manière un peu violente,
oui.
et il obtient une information.
Oui.
Et là, tu as le perso qui fait hein, et scène d'après, il se retrouve devant un entrepôt sur un port sous la lune et il doit rentrer dans ce bâtiment, mais en fait, le PJ ne sait pas pourquoi.
Ah, non, ça serait plutôt... imaginons le grand prêtre des serpents.
Oui.
Les joueurs, ils osent pas vraiment aller l'affronter parce que ils se rendent bien compte qu'ils sont, enfin, ils ont décrit qu'il était invincible. Voilà. Enfin, vous me direz avec les Fenex, ils sont pas obligés, mais voilà. Et là, les joueurs, ils vont peut-être dire, mais quel artefact alors devons-nous récupérer ? Comment est-ce que nous pouvons battre le dieu serpent ? Et là, s'ils ratent leur jet, ils vont le MJ va dire bah vous pensez qu'il suffit d'arroser du sang le serpent pour le faire mourir, mais en réalité c'est pas ça, quoi. Il aurait fallu être muni de tel artefact pour le battre.
Ouais. OK.
L'idée c'est que le MJ, il est incité à trouver une information que n'ont pas les PJ et où ça pose problème, quoi, parce que les PJ, comme ils n'ont pas une information capitale, ils agissent de façon irréfléchie.
En fait, quand tu me disais, les personnages savent quelque chose que le joueur ne sait pas.
Non, c'est l'inverse. Ah, je me suis sans doute trompé alors. Non, c'est. Non. Non, c'est le joueur qui en sait plus, que... autant pour moi.
Ah oui, alors dans ce cas ça change tout.
Ça fonctionne. Tout à fait, ça fonctionne dans l'autre sens. C'est plus classique du coup.
C'était rigolo d'imaginer le joueur essayant de tirer deviner, les verres du nez.
Non mais en fait, je trouvais l'idée vachement intéressante.
Ouais,
toujours est-il que il aurait fallu que par la suite ce soit expliqué ou en tout cas voilà. Mm-hmm. Ok, donc c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas ça. Donc voilà en gros comment se déroulent les trois types de scènes du jeu. Et après avoir décrit ça, on a une vision du, enfin, on a quelque chose qui moi je trouvais un système qui est assez cohérent, qui rend vraiment bien les descriptions de genre de sword and sorcery, et que je trouve vraiment efficace. Alors le Epidia Ravachol rajoute quelque chose, un système de fil narratif sur lequel je vais peut-être passer un peu moins de temps parce que je le trouve moins convaincant et du coup moins intéressant. Je pense presque qu'on pourrait le sauter. Enfin, il y a des bonnes idées, mais il y a aussi des trucs qui fonctionnent pas trop. Il y a d'abord une logique de motif. Dès que un joueur raconte quelque chose qu'un autre joueur trouve intéressant, l'autre joueur va noter l'élément qu'il trouve intéressant. Donc, par exemple, Cobal, il a décrit dans sa scène comment le dieu serpent, il a décrit comment la femme de l'épicier se transforme en serpent, et moi je trouve ça cool, une transformation en serpent. Donc je vais noter sur la feuille de motif transformation des humains en serpent. Mm-hmm. Le jeu, en fait, alors là je trouve ça intéressant parce que c'est un moyen, en fait, de, enfin, c'est un peu l'inverse du Next, quoi. Next, c'est un moyen de dire à Cobal, bon, t'es bien gentil avec ton ennemi, mais je trouve ça nul. Mais le fait de noter son motif, c'est un moyen de lui dire, bah, c'est cool, en fait, ton truc, je trouve ça intéressant, je vais le noter, enfin, j'aimerais bien qu'on continue à, enfin, c'est aussi un moyen de faire passer le message que je trouve ça intéressant et ça serait bien qu'on continue à en parler.
Que les éléments qui ont été apportés sont cool et qu'on peut continuer de développer dans ce sens-là.
Tout à fait. Mais par contre, le jeu ne se terminera que quand on aura atteint un certain nombre de motifs. Et ça, je trouve ça vraiment sans grand intérêt. Je suis jamais très convaincu par les systèmes qui indiquent à quel moment la partie se termine. Et là, vraiment, je trouve finalement que les joueurs et le MJ sont plus capables de gérer le rythme que le système de jeu. Et à la fin de notre jeu, on a rushé, on a écrit plein de motifs parce que clairement il y avait un climax de l'action et il était temps d'arrêter la partie. Et le système, si on l'avait vraiment appliqué by the book, il nous aurait pas laissé faire, quoi. Et bon, c'est quand même pas, c'est pas quelque chose que je trouve passionnant.
D'accord. C'est-à-dire qu'il ne te laissait pas faire dans quel sens ? C'est-à-dire que tu ne pouvais pas placer climax que tu voulais au moment que tu voulais.
Ta partie doit se terminer quand on a atteint un certain nombre de quand on a noté un certain nombre de motifs. Et en fait, elle doit non seulement se terminer, mais on doit réintégrer des motifs dans l'action. Et voilà, bon, ça vraiment, je.
Ah oui, alors du coup, mécaniquement, tes joueurs ont été obligés de remplir ce truc à toute vitesse de façon à. Remplir les conditions nécessaires pour avoir le final qu'ils voulaient.
Tout à fait. Alors que, enfin, et pas que mes joueurs, moi aussi. Enfin,
oui,
moi aussi,
oui,
j'avais,
oui,
envie,
oui,
que,
oui, bien sûr,
j'avais envie que ça termine parce que là, ils étaient entrés dans le temple souterrain du dieu serpent, il y avait la déesse serpent, enfin bon, c'était.
Okay. Il y avait la totale.
Il y avait tout qui s'effondrait autour d'eux, la ville commençait à s'effondrer, c'était le moment de finir, quoi. Il y avait un combat qui était clairement esthétiquement pensé comme un combat final, quoi. Et voilà, on a ce système de motifs que je trouve donc convaincant, enfin intéressant pour le fait de noter les motifs, mais pas convaincant en tant que mécanisme de endgame.
Je vais prendre le contre-pied là-dessus, si tu permets, parce que ça me fait penser que cette histoire de noter les motifs, c'est aussi une manière de mesurer une certaine satisfaction des participants. Et en fait, peut-être que toi, en amenant la scène finale tôt, t'as coupé court au développement de cette satisfaction. Je pense que c'est l'idée qu'il y a derrière ça, c'est justement de mesurer un degré de satisfaction qui te permet de faire aboutir l'histoire.
En fait, si j'ai bien compris, pour accumuler ces éléments que tu décris, cela nécessite de faire une scène pour.
Oui, ça nécessite en plus de faire une scène. Donc, où on clôt on réutilise ce motif. Enfin, par exemple, on réutilise la transformation en serpent. Mm-hmm. Et donc,
du coup, ça nécessite aussi mécaniquement d'avoir un certain nombre de scènes qui s'enchaînent pour pouvoir, à la fin, avoir suffisamment de potentiel pour pouvoir aboutir au final. Et est-ce que cette séquence, est-ce qu'elle n'est pas trop grande, finalement, pour une partie classique, puisque c'est un peu ton problème, finalement. C'est que tu n'as pas le temps de développer tous les éléments du jeu by the book pour arriver à la scène sans être obligé de rajouter 4 heures à la partie.
Ouais, mais je pense pas. Déjà, la partie est...
je pense que déjà que la durée de partie de entre les joueurs, elle dépend tellement de circonstances qui sont interne et externe au jeu, enfin ça dépend de ta façon de jouer, ça dépend aussi du temps que t'as, peut-être que t'as 3 heures dans la partie, donc tous les joueurs sont obligés de rythmer pour que la partie soit rapide, peut-être que t'as une journée de jeu entière, dans ce cas-là on a envie d'insister et de raconter une histoire vraiment longue. Moi je suis jamais convaincu, enfin j'ai jamais été convaincu par ces logiques, ces systèmes qui prétendent jauger à quel moment c'est pertinent de conclure, enfin
de conclure une séance ou de conclure une campagne entre guillemets quoi.
Ouais voilà. Enfin, moi ça me et je sais que j'en ai discuté avec mes joueurs qui étaient convaincus par le climax et que je pense qu'ils étaient tous assez d'accord. Enfin, ils allaient tous vers le temple du dieu serpent, ils le réclamaient, ils voulaient que ça finisse et je ne pense avoir lésé personne dans ce système.
Oui non mais je me faisais l'avocat du diable.
Hein. Oui non mais je
non mais en fait ce que je veux dire c'est que finalement la mécanique du jeu fait que tu es obligé d'avoir un certain temps pour arriver à une conclusion.
Oui c'est ça. Ouais. Enfin, et un certain temps, et c'est il faut aussi que les joueurs et le MJ aient pensé à noter des motifs quoi. En plus pour une première partie, c'est pas quelque chose de si naturel que ça faire une note, de noter la satisfaction, ce qui est c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant de noter des motifs.
C'est jamais facile dès que tu demandes comme ça des gens de juger un petit peu, genre alors qu'est-ce que tu as préféré en partie d'aujourd'hui.
Mais là justement t'as pas besoin d'avoir une conversation pénible, débriefing à la fin, il suffit tu peux faire un compliment t'es timide et ton compliment c'est juste de noter un motif quoi, et à l'inverse t'as pas envie de t'engueuler avec ton MJ donc tu vas juste tuer son PNJ dans une scène de péril quoi. C'est là encore une fois c'est un moyen de formaliser, enfin c'est un moyen de, enfin on a plus de discussion quoi, mais c'est un moyen de communiquer sur la qualité de la partie mais via les mécaniques, et ça je trouve ça génial.
Ah, c'est-à-dire que par exemple donc tu vires les PNJ que t'aimes pas en revanche les PNJ que t'aimes bien tu vas investir dessus et commencer à raconter des histoires à leur sujet
Oui c'est ça, enfin tu peux noter les trucs qui sont intéressants comme motifs.
Non seulement ce mec est le maire de la ville mais en plus c'est un puissant sorcier.
Oui c'est ça, voilà. ça peut être ça Voilà.
Et donc tu peux commencer à approcher ce PNJ de proche en proche, et au fur et à mesure des scènes tu lui rajoutes des espèces de caractéristiques de monstre en quelque sorte. Oui, et en plus il est puissant et en plus on dit que
Et c'est aussi un moyen d'encourager le MJ. Moi j'avais pas plus que ça prévu que de faire du temple du dieu serpent un grand antagoniste. C'était pour moi juste une rencontre parce qu'ils allaient voler des trucs dans un temple. Et en fait ils ont noté des motifs qui étaient relatifs au dieu serpent, et que ça soit des motifs que j'ai amenés ou des motifs d'ailleurs que d'autres joueurs ont amenés, hein, puisque moi aussi je peux noter les motifs, le MJ peut aussi me noter, et ça m'a vraiment, enfin en voyant les motifs qu'il notait, je me suis dit bah voilà, fonce quoi, c'est le grand antagoniste de cette histoire, c'est lui quoi, c'est
ça, le ça t'a vraiment guidé dans ta narration.
Ouais. En plus ils l'ont pas tué dans la scène de combat, enfin non mais voilà,
ce que j'allais dire tout à l'heure, en fait si on prenait le troll et qu'on le butait pas mais qu'on se faisait s'écrouler le temple etc, et qu'on sait pas ce qu'il est devenu, on peut le recycler et tout, et donc tu ces gens aiment bien les trolls.
Alors sinon le jeu se termine, alors le jeu fait 32 pages, mais au bout de la moitié du jeu le jeu te dit, il a décrit un peu ce que je vous ai décrit, et le jeu te dit arrêtez de lire, lancez une partie et il y aura des règles supplémentaires dans la deuxième moitié du bouquin. Et donc du coup je vais pas vous parler des règles dans la deuxième moitié du bouquin qui sont intéressantes et qui rajoutent des types de scènes, mais moi je trouve ça assez chouette ce jeu qui te permet, enfin qui a une version une première version qui est tout à fait satisfaisante et qui te permet de faire une première partie et qui te demande pas de lire la totalité de ce qui est écrit dans le bouquin. Alors voilà pour mon avis sur le jeu. Je vais terminer juste en disant comment est-ce qu'on peut acheter ce jeu. C'est un jeu qui est édité de façon un petit peu étrange, puisque l'auteur, il a non pas édité son jeu directement, mais il a créé une revue qui s'appelle World Without Master. Et c'est une revue qui mélange des nouvelles de Sword and Sorcery et des jeux de rôle. Et chaque fois, c'est des revues qui ont une cinquantaine de pages et qui doivent coûter 4$, enfin c'est vraiment rien du tout. Et dans chacun des numéros de cette revue, il y a des nouvelles, et c'est des revues assez bien illustrées en plus, et il y a un jeu de rôle à chaque fois. Et ce n'est que dans le troisième numéro de Worlds Without Master que Epidia Rabachol a publié Sword Without Master.
D'accord.
Il y a combien de numéros jusqu'à...
Alors là, on est arrivé au quatrième numéro et pour l'instant, il y a eu trois jeux qui sont sortis puisque le quatrième numéro, il avait une aide de jeu pour le jeu du premier numéro.
Oui. Et moi, alors quels sont les deux autres jeux?
Alors le premier jeu, je ne l'ai pas regardé, je t'avouerai. Et par contre, le deuxième jeu, c'est un autre jeu d'Epidia Rabachol où on incarne des hommes loups qui sont dans un univers fantasy, mais qui sont tiraillés entre continuer à suivre la meute de loups, enfin c'est des change-formes en fait, et revenir à la vie humaine. Voilà. J'ai pas plus que ça étudié le jeu, mais ça m'a l'air intéressant. D'accord. Au moins thématiquement.
Ça a l'air simple.
Et c'est un jeu très court, il fait même pas une dizaine de pages lui.
Ok.
Pour être sûr de bien comprendre ta pensée tout à l'heure sur les motifs, c'est plus un problème de dosage que t'évoquais plutôt que le fait que les motifs soit reconnu.
C'est un problème de dosage, mais c'est un peu plus que ça. C'est que je pense que le jeu, il pense être capable de doser pour moi et pour nous, en fait, pour moi et mes joueurs, à quel moment il va être pertinent de faire intervenir le climax de la partie. Moi, je pense que, enfin, effectivement, si l'auteur il avait proposé de terminer la partie alors qu'on avait moins de motifs, cette partie-là elle aurait marché, mais peut-être que ta partie elle aurait pas marché, et peut-être que les parties que je vais faire elles auraient pas marché. Je pense que c'est illusoire de trouver le nombre d'or qui va fonctionner à toutes les tables, qui va fonctionner à toutes les parties et qui va te permettre de doser à chaque fois et de dire pour chaque partie, là c'est le climax, il va être temps de conclure. Je pense qu'il vaut mieux laisser ça entre les mains des joueurs et pas d'une mécanique.
Mais comme tout jeu nécessite un minimum d'adaptation, là c'est juste le point clé où tu peux pas t'en passer en fait.
Ouais, c'est ça, mais enfin, moi je pense qu'on peut se passer de cette logique de motif dont le vrai intérêt c'est de permettre de faire passer des messages, et en plus des messages positifs aux autres joueurs en leur disant franchement ce que tu viens de décrire, j'ai trouvé ça hyper cool. Et c'est surtout ça que je retiens de cette logique de motif et pas son utilisation comme déterminant de la fin de la partie.
Tout ça donne très envie de lire le jeu, donc on mettra les liens aussi sur le...
Ouais, pas de souci. Il est disponible sur DriveThru, mais je crois qu'ils viennent de créer un site internet spécifique à la revue World Without Master.
Mmh. Et sur DriveThru, c'est combien le jeu à peu près?
Je crois que c'est 4$. Okay. 4$ la revue. Alors. Et donc c'est le troisième numéro, et on peut l'acheter, je crois, les trois premiers numéros, on pouvait les acheter à 9$ les trois. Enfin, vraiment, une okay. paille.
Et d'accord. Sachant qu'il y a encore un autre moyen de se faire une idée du système, c'est The City of Coin and Fire.
Oui, t'as raison, il y a un kit de démo, mais alors, c'est pas très pratique, parce que c'est un scénario de démo, et l'idée, c'est que on lit des textes aux joueurs pendant la partie, et comme le jeu est en anglais, donc à moins d'être dans une table d'interprètes anglais-français, ou vraiment de jouer en anglais, vous allez, enfin c'est un peu galère d'utilisation. Enfin, il faudrait presque traduire la totalité du kit de démo, et en fait il est assez long mine de rien. Donc il y a un scénario de démo qui est intéressant. Je m'en suis beaucoup inspiré pour la préparation de ma première partie.
Ouais.
Mais sa logique où il faut lire les textes aux joueurs, je pense qu'elle rend assez difficile de l'utiliser si vous jouez pas en anglais.
Non, mais ça permet d'avoir une idée, effectivement.
Ouais, mais attendez, lire les textes.
Oui, mais tu sais, les trucs classiques, tu sais, lisez, c'est encadré à votre joueur. Ça nous ramène 15 ans.
Non, mais je veux dire, il y a ça, par exemple. Donc là, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, je suis en train de pointer du doigt le kit de d'initiation pour Star Wars.
Comment est-ce qu'il s'appelle?
C'est valable pour les deux.
Donc aux confins de l'Empire. Et donc tu as par exemple dans ce scénario désencadré à lire pour les débutants et tout ça. Et du coup je me dis mais finalement à qui s'adresse ce jeu en fait?
Bah encore comme je l'ai dit, le jeu il est tellement particulier. J'en ai parlé à plusieurs rôlistes qui ont lu le bouquin. Il est plutôt bien expliqué quand on le lit. Enfin, on voit pas de problèmes éditoriaux flagrants dans la présentation des règles.
En fait,
un peu compliqué à lire.
C'est bizarre parce que c'est un ouvrage qui ne s'adresse pas à des rôlistes. Ça s'adresse à des gens qui veulent jouer.
Disons que le fait d'être rôliste ne te donnera pas de bonus à la compréhension de l'ouvrage.
Voilà, tu n'as pas ton plus un à suivre sur l'action. Très bien, d'accord.
J'avais une question sur Epidia Rabachol, oui.
Oui.
Je crois me souvenir que c'est aussi lui qui a créé un jeu de rôle qui est censé tenir sur une carte postale.
Ouais, c'est ce jeu s'appelle Sous la lumière des étoiles et il a été récemment traduit en français.
Ça peut être trop long. Ouais, j'ai traduit un jeu. Bon.
Et c'est le jeu, il tient. Alors en fait, il a trois suppléments, mais. Enfin, mais le jeu tient sur une carte, sur une carte de visite, et tout tient sur une carte de visite. Et moi, je vais vous dire, je trouve que ce jeu, il est presque trop long parce que il y a quelques idées de règles que je n'aime pas beaucoup, et je pense que le jeu mériterait d'être encore plus simplifié.
Il y a moyen de remplacer ces règles par des points de background.
Et en fait, Sous la lumière des étoiles, c'est une augmentation de, enfin, il a ajouté des trucs par rapport à son PDF de présentation du jeu de rôle qui s'appelle Qu'est-ce que le jeu de rôle? Et c'est un jeu, en fait, c'est à la fois donc un PDF de présentation, mais c'est un jeu. Et il fait une page, et c'est un moyen d'initier les gens au jeu de rôle. Et je dis juste la thématique que je trouve à la fois hyper cool et un peu bête, mais on peut l'oublier parfaitement en partie. C'est on incarne des braqueurs de banque qui sont en fait aussi des astronautes et qui ont prévu de prendre la navette et d'aller en mission spatiale juste après leur braquage et qui pensent que c'est la couverture parfaite.
Wow. Ok. mais je
faut y croire déjà.
On peut garder que le braquage en fait. Ça...
Parce que j'avoue sinon, c'est un bon alibi quand même. Mais non, mais,
ce sont des gens qui ont fait un apéro radio-rôliste avant d'écrire le jeu.
Tout à fait, ouais. Oui, bon, oui, je pense que.
Je le suggérerais à mes vieillards dans The Hood. Hein.
Mais, honnêtement, qu'est-ce que le jeu de rôle? Mais alors bon, le pitch est un peu fantasque, mais il y a des très très bonnes idées et ça tient que sur une page, donc je conseille vivement de le lire. Mais je conseille beaucoup Dread et Dread House, qui est un jeu de société pour enfants, qui est une adaptation du jeu Dread avec pour Jenga, et ça s'adresse surtout à des gamins. Et on est dans une maison, on tire sur le Jenga pour éviter de fuir, et il y a des moments où on doit décrire aux gamins comment est-ce qu'il se passe des trucs qui font très très peur dans le dans la maison, quoi. Donc ça doit être super à jouer avec des gamins de 10 ans.
Oh, je vais jouer avec mon neveu et ma nièce quand ils seront un peu plus vieux, parce que là ils auraient peur.
Oui, après les parents te les laisseraient plus. Oui, donc on comprend pas, il est traumatisé maintenant, il veut plus éteindre la lumière le soir.
Il ne veut pas jouer au Jenga.